Alors bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coach sportif, le podcast dédié aux coachs sportifs dans lequel on part à la rencontre de certains coachs sportifs où on va apprendre de leurs meilleures pratiques, de comment est-ce qu'ils font pour acquérir de nouveaux clients et gérer leurs clients actuels. Avant de commencer l'épisode, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Jim Key pour ne manquer aucun prochain épisode et à laisser un avis positif sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Apple Podcasts, Deezer ou bien Spotify. Ça nous aide énormément sur le référencement. Aujourd'hui, je suis avec Bika Karim. Que je vais laisser se présenter. Salut Karim, comment tu vas?
Salut, ça va et toi?
Ça va, nickel, je te remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui pour discuter avec toi sur ton parcours, sur les différents types de coaching que tu proposes, parce qu'aujourd'hui on te voit beaucoup sur les réseaux. Je pense qu'il y a pas mal de coachs sportifs qui te connaissent. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Oui, alors déjà merci pour ton invitation. Écoute, je m'appelle Karim, donc alias Bika sur les réseaux. Je pense qu'on me connaît sous les deux noms, peut-être même plus souvent Bika. Donc je suis coach sportif depuis 2005. Donc 16 ans de bons et loyaux services en tant que coach. Quoi te dire? Ouais, 16 ans de pratique. Je suis titulaire d'un brevet d'État qui n'existe plus malheureusement, qui est le brevet d'État Acumez, donc qui était vraiment très axé muscu, qui correspondait vraiment à ma pratique de l'époque, parce que j'étais vraiment axé muscu. À l'époque, on avait le choix entre le métier de la forme ou Acumez, qui était axé muscu. Le métier de la forme, c'était step, etc. Et tu t'en doutes, quand je suis sur un step, c'est pas le lac des cygnes.
J'imagine.
Je suis arrivé à la muscu. Très tôt, j'allais avoir 16 ans, j'avais 15 ans, j'étais à l'aube de mes 16 ans. J'ai commencé la muscu parce que à l'époque je faisais de la boxe. Okay. Et j'étais un petit peu trapu. Gamin, j'étais assez fin, puis à l'adolescence, tu sais, on est un peu trapu. J'étais un peu trapu, donc fallait que comme j'étais un peu lourd, fallait que j'essaie de boxer à un poids de manière intelligente. Quitte à être lourd, je me suis dit, quitte à être lourd, autant faire un peu muscu. J'ai eu de la chance à l'époque. J'ai mon coach de boxe qui était très muscu, parce que tu sais, à l'époque, la muscu, c'était un petit peu, c'était pas super bien vu.
Ouais, c'était pas le phénomène boxe, que c'est aujourd'hui.
Ouais, surtout en boxe, à l'époque, on disait que ça te ralentissait, etc., alors qu'en fait, bon, ça peut te permettre de développer, au contraire, certaines qualités athlétiques. Donc, je suis venu à la muscu à l'âge de presque 16 ans, donc ça fait quasi 26 ans. Et, 25 ans. Et je ne l'ai plus quitté depuis. Je me suis blessé en boxe. J'ai jamais pu retourner à la boxe. Alors, j'ai quand même fait presque 7 ans de boxe. J'ai vraiment beaucoup aimé ce sport. Et à ce jour, je pense même que c'est la boxe qui m'a donné la rigueur de travail que j'ai aujourd'hui.
Ok, d'accord.
Complètement. La boxe, c'est un sport... Il faut aimer, hein. En l'occurrence, c'était beaucoup la boxe anglaise. Il faut aimer, mais ça m'a donné une rigueur de travail, même une rigueur dans ma vie de tous les jours, que je n'aurais pas acquis autrement. Surtout, d'avoir pratiqué à un jeune âge, à l'adolescence, ça a peut-être évité des dérives. Je n'ai pas un tempérament à faire des conneries, mais on ne sait pas. Et j'ai passé beaucoup de temps dans la salle de sport. Donc, ça m'a donné l'éthique de travail que j'ai aussi aujourd'hui en muscu. Donc, voilà, comment je suis arrivé à la muscu, comment j'ai passé le diplôme de coach après, c'est tout simple. J'ai passé un bac littéraire.
Okay.
Après, j'ai voulu me lancer dans une formation d'ostéopathie, mais à l'époque, c'est pareil, c'était pas super, super connu, donc j'ai fait une première année, mais le problème, c'est qu'à l'époque, seuls les docteurs ou les kinés pouvaient pratiquer.
D'accord.
Donc j'ai fait une année de formation dans une école de formation d'époque, donc c'était pas les formations poussées comme maintenant, et puis voyons que ça ne débouchait nulle part, parce qu'il n'y avait pas d'évolution du statut tout de suite. Je suis parti, je suis retourné dans ma passion qui était le commerce, et j'ai passé un BTS action commerciale.
Ok.
Donc, était très axé marketing. Le truc, c'est que quand je commençais à bien évoluer dans la muscu, donc physiquement, je commençais à être pas mal. Et le truc, c'est qu'on me demandait beaucoup de programmes.
Ok. Ça, c'est généralement ça au début quand on voit quelqu'un.
je faisais avec mon petit niveau, c'est-à-dire que je mettais quand même beaucoup documenté. À l'époque, on n'avait pas autant accès à l'information que maintenant, mais par contre, on avait peut-être accès. Sur ce qui était en ligne, c'était quand même de plus de qualité. Il y avait moins de conneries, tu vois. Maintenant, il y a une dissolution de conneries énorme, mais on sait plus réellement quoi penser. Donc, de mon petit niveau, je faisais des programmes, et puis je voyais que pour le coup, ce que je faisais donnait pas mal de résultats. Donc, je bossais en parallèle, puisque j'étais en BTS en alternance, et je bossais en parallèle dans une boîte de finance, J'étais dans la section du secteur marketing, je faisais un peu de finance et tout ça. Et il m'avait proposé de rester après, quand j'ai eu mon BTS. Et non, en fait, je m'apercevais que la seule chose que j'avais en tête quand j'étais là-bas, c'était de faire mes programmes, d'aider les gens à s'épanouir. Et en fait, je me suis rendu compte que la muscu m'avait tellement fait de bien, à changer mon corps d'adolescent, t'es pas très beau, m'avait donné tellement d'assurance en moi qu'en fait, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que j'avais amour à retransmettre.
Ok.
Tu vois. Donc, il a fallu passer, bien évidemment, pour pratiquer de manière légale, il a fallu que je passe un diplôme. Donc, au début, comme j'étais encore dans une vision où je voulais partir aux États-Unis à l'époque, j'avais passé un diplôme de personal trainer et nutrition sportive dans une académie américaine à l'époque,
okay.
qui était à New York. Et puis, finalement, étant resté en France, j'ai passé en 2006 ce fameux brevet d'État à CUMES. Qui vraiment, vraiment ce diplôme, je le chéris parce qu'il était dur à avoir.
Ok. Plus dur que ce qui est aujourd'hui, ce qui est disponible aujourd'hui, ou c'était équivalent, ça représente quoi?
Non, okay. C'était très dur. C'était très dur dans le sens où, là, maintenant, tu peux t'en tirer, même si t'as jamais pratiqué la musculation, tu peux quand même t'en tirer en allant BPJEPS, en bossant, en travail de fond, tu peux t'en tirer. La CUMES, si t'avais pas derrière 5 ou 6 ans de pratique de muscu sérieuse, non, tu l'avais pas. C'était pas possible. C'était pas possible. Parce qu'il y avait vraiment une grosse part de physique aussi. Et des connaissances vraiment très, très poussées en physio, en biomécanique.
Okay, d'accord.
Et tout. C'était vraiment, vraiment hyper passionnant. Donc, ces diplômes étaient, d'ailleurs, je crois qu'il y avait un taux de réussite à genre, 30-35%, je crois.
Ok, donc c'est vraiment hardcore de l'avoir à ce moment-là. Quoi.
C'est okay. Hardcore. Quand t'as la CUMES, c'est pas parce que je l'ai, hein. Mais quand tu l'as, t'as bossé. Tu vois.
Ok. D'accord.
Alors, pas du tout pour dénigrer les formations actuelles, c'est juste que celle-ci, bah, elle était un petit peu plus poussée. Et d'ailleurs, elle était d'un niveau au-dessus. Il y a des niveaux, pour les diplômes, elle était d'un niveau au-dessus.
Et BTS, voilà. C'est quoi? C'est sur 2 ans que tu l'as eu?
Le BTS, ouais, je l'ai passé sur 2 ans.
Ouais. Okay.
Un bac plus 2.
Ok. D'accord.
À la base, j'ai un bac littéraire à la base, tu vois.
Ok. Du coup, le coaching, parce que la question qui allait venir après, c'est le pourquoi, c'est venu après le passage en boxe ou dès que tu étais petit, tu savais déjà, en fait, tu avais un petit... Ok.
Non. Non, non, moi, ce qui me plaisait, c'était le commerce.
Ok.
C'était le commerce. Je suis fils de commerçant. Papa était commerçant. Moi, j'aimais bien le contact.
Ouais.
Avec les gens. Ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Également, mon père avait des restaurants, j'y allais, je bossais avec lui, enfin, ma mère aussi, je bossais avec elle. Enfin, c'était, tu vois, j'aimais bien le contact des gens.
Mmh.
Donc, je pense que j'avais une fibre sociale.
Commerciale, ouais.
Ouais. Et du coup, le BTS Action Commerciale, je m'étais bien épanoui dedans parce que j'avais
le contact
avec les gens, il y avait un contact clientèle, il y avait un challenge aussi, parce que j'aimais bien le challenge. Et je pense que ce que j'ai acquis dans le commerce, peut-être me sert aujourd'hui aussi dans le...
C'est sûr et certain, parce qu'aujourd'hui, ouais. vu ta présence sur les réseaux, vu comment aujourd'hui, pour avoir vu un peu la structure de ton site web, avoir vu un peu ce que tu proposais, c'est sûr et certain que tout ça t'a permis aujourd'hui. Ouais. Après, depuis, je pense que tu as continué à te former, à apprendre de nouvelles choses,
Ouais, j'ai appris, puis après, une fois que j'ai suffisamment appris, je fais beaucoup de choses à l'instinct maintenant.
Mmh, ok, d'accord.
Parce que je connais ma communauté, ça fait 16 ans que je fais ce métier, donc je le connais par cœur.
Mmh. Ouais.
Et encore une fois, hein, sans vantardise aucune, mais je connais vraiment ce métier sur le bout des doigts. Et qu'est-ce qui m'a vraiment décidé, en fait, c'est vraiment cet amour de voir mon corps changer, ça m'a passionné.
Mmh.
Mais d'être capable de retransmettre ça sur quelqu'un que tu peux savoir des fois en situation de détresse aussi. Parce que je crois que quand on n'est pas dedans, on ne se rend pas compte à quel point le corps de quelqu'un peut être son pire malheur.
Mmh.
Tu vois.
Sur la santé mentale.
Sur la santé, le mental, quelqu'un qui est en surpoids, qui n'ose pas. C'est terrible, quelqu'un qui est en surpoids, qu'ose pas se mettre en maillot de bain, qu'ose pas mettre certains vêtements et tout ça. Tu ne peux pas savoir socialement ce que tu leur redonnes quand tu les aides à perdre du poids. Et ça, c'est le truc qui m'a fait kiffer dès le début. C'est dès que j'ai eu mes premiers résultats, je me suis dit, mais attends, quel commerce c'est bien, tu gagnes correctement ta vie et tout, mais franchement, non, c'est. Ma passion, c'était ça. C'est-à-dire que j'étais au taf, c'était mes programmes de... Donc, c'était logique que voilà. Donc, j'ai vraiment vécu ça avec mes tripes. Hein. Le coaching, moi, c'est vraiment... c'est mon métier. J'en gagne ma vie et j'en suis très content parce que j'ai la chance de vraiment faire quelque chose que j'aime. Je compte pas mes heures. J'ai de la chance, je dors très peu. Mais vraiment, le coaching, je suis venu par... par déduction.
Et ça a été, c'était quoi ton parcours dans le coaching là? Une fois que toi, t'as eu ton diplôme, c'est quoi la prochaine étape? J'imagine que t'as commencé en salle de sport comme...
Exactement. Okay. J'ai commencé dans une salle de sport de combat.
Ok, d'accord.
Qui était la salle où je faisais de la boxe, tu vois.
Ok.
Comme j'ai habité dans une petite ville, remarque, c'était vite fait.
Elle existe encore, la salle où tu boxais?
Elle n'existe plus. Elle est sous un autre nom maintenant, avec certains éléments du staff qui sont restés, mais elle est sous un autre nom maintenant. Et, okay. Et d'ailleurs, elle prépare des champions olympiques de karaté.
Ok.
Ouais. Donc, elle n'existe plus sous le même nom. Et j'ai bossé là-bas pendant à peu près un an.
Ok.
Le temps d'avoir quelques coachings et tout ça en parallèle. Après, entre-temps, j'avais toujours ma passion pour les États-Unis, donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours aux États-Unis.
Ok. C'était pour te former, c'était pour...
Bah, les deux, c'est-à-dire que les personnes que je rencontrais là-bas, j'ai rencontré des champions, j'ai rencontré des pratiquants de haut niveau, donc en fait, j'apprenais parce que à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, mais à l'époque, les États-Unis avaient vraiment, vraiment, vraiment une dimension d'avance sur nous. 10 ans d'avance sur nous facilement, tu vois. Donc, ce que je chopais là-bas, je le retranscrivais ici, dans mes coachings. Et il y a des choses qui passaient pas toujours bien, tu vois. Quand je disais que la créatine, c'était pas mal. Produit dopant, non. Alors que là-bas, t'allais aux États-Unis, t'allais dans l'équivalent de Carrefour, t'en avais sur les étalages.
Ok.
Tu vois, ouais, c'était... Donc voilà comment le parcours après, c'était que j'ai développé le coaching en salle, au fur et à mesure.
Okay.
J'ai fini par arrêter en salle de sport.
T'as commencé en tant qu'employé du coup, ou c'était direct? Oh, ok, d'accord.
Ouais. J'ai commencé en tant qu'employé. Et puis ça a duré à peu près un an. C'est-à-dire que pendant un an, j'ai développé ma clientèle là où j'étais.
Ok.
C'était une petite ville, donc c'était pas forcément évident. C'était beaucoup de domiciles et honnêtement, je ne me suis pas forcément épanoui. C'était de l'alimentaire. Le coaching à domicile, c'est pas ce dans lequel je m'épanouis le plus. Enfin, tout du moins à l'époque. Maintenant, on a un peu plus de matériel à dispo, donc pour faire du domicile, ça pourrait passer. À l'époque, c'était vraiment du poids de corps. Donc voilà, mais ça m'a permis de me mettre le pied à l'étrier dans le coaching. Et puis après, les années ont passé, je suis venu à Paris.
Ok.
En 2014. Je suis venu à Paris et à Paris, il y avait beaucoup de taf. Et je pense que mon nom a circulé assez vite dans les salles où j'ai bossé, donc j'ai eu pas mal de boulot. Je peux pas me plaindre.
Okay.
Sans m'entarder aucune, je pense que je vais pas faire du mauvais boulot et pour le coup, mon nom a pas mal circulé. Donc,
c'était du coaching physique que tu proposais en salle de sport. Tu allais chercher les clients, tu les coachais, tu avais des résultats, donc les gens ils te voyaient, ils te recommandaient. Ok, d'accord.
Il y avait pas mal de bouche à oreille, et puis, ça veut rien dire, mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais déjà quand même bodybuilder, donc physiquement un peu plus costaud que la moyenne, et ça joue aussi. Même si un bon coach n'est pas forcément coach très musculaire, ça veut absolument rien dire, mais ça attire un peu. Donc voilà, donc ça c'était de 2014 jusqu'à 2016.
Ok.
Et puis en 2016, j'ai commencé à avoir des demandes. Je m'étais mis un peu sur les réseaux sociaux, mais à la base, c'est pas mon kiff, tu vois. Et je me suis mis un peu sur les réseaux sociaux en 2016. Et je postais 2-3 trucs en 2015, mais c'est vraiment dilettante. Photo tous les 4 mois. Et puis en 2016, j'ai des gens qui m'ont vu en salle.
Ouais.
Qui m'ont contacté via les réseaux sociaux et qui n'avaient pas forcément les moyens de prendre un coaching en salle.
Ouais. Ça coûte cher. Tu facturais combien à cette époque-là? Tu
savais ou pas? Quand je suis arrivé à Paris, je facturais 35 euros la séance. on était aux alentours de 65-70 balles.
Ok.
La séance. Et voilà. Et du coup, on m'a demandé si je pouvais faire des coachings à distance. Et le premier coach que j'avais eu, en 2005, je l'avais eu à distance.
Okay. J'avais ton propre coach. Ok.
Ouais. Donc du coup, je savais qu'à distance, on pouvait faire quelque chose de bien. Quand la personne était bien au bout, était bien responsable, était vraiment motivée et tout, je savais qu'on pouvait faire quelque chose de bien.
Donc, 2005, c'était un coach américain que tu avais?
Ouais, c'était un coach qui vivait à Los Angeles.
Pour le coup, tu vois, le coaching en ligne en France, il arrive que 10 ans après, comme tu le dis, hein, quasiment.
Pour l'anecdote, quand j'ai passé mon diplôme de coach en... Non, je l'ai eu en 2004, pardon. Quand j'ai passé mon diplôme en 2005, J'ai tenté un petit peu de lancer un peu le coaching en ligne en France avec les moyens qu'on avait à l'époque, donc des forums de musculation, des choses comme ça, et je me suis fait mais outrageusement insulté en disant que c'était une aberration de faire du coaching en ligne par des coachs.
Oui, parce que c'est pas du vrai coaching. Ça c'était un peu le cas en 2017. Hein.
Ouais, bah mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je ne citerai pas de nom. Mais en fait, des gens que je vois avec qui je déclash en 2005-2006, quand j'essayais de populariser ça un petit peu, font eux-mêmes du coaching maintenant en ligne et en font ça comme le Saint Graal. Alors qu'à l'époque, je te jure qu'il y a des gens qui me disaient que c'était une honte. Un coach doit être présent auprès de ses élèves, corriger les mouvements, etc. Alors oui, c'est vrai, dans le cadre de quelqu'un qui est débutant, etc., le mieux, c'est encore, tu vois, avec la possibilité de regarder des vidéos de mouvements et tout ça, tu peux te débrouiller. Mais du coup, j'avais eu des gros clashs à cette époque-là, donc là, je pense que les gens n'étaient pas prêts. Par contre, à partir de 2016, ouais, ça a commencé à avoir beaucoup de demandes. Et puis, arrivé un moment où, j'ai commencé à comprendre un peu le jeu des réseaux sociaux.
Ok.
J'ai fait quelques collaborations qui m'ont fait un petit peu connaître. Et puis, j'ai commencé à comprendre comment ça marche. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait des choses que je disais, des traits de mon caractère qui passaient bien. Et ça n'a pas été compliqué parce que j'étais très naturel. Donc j'ai pas eu à faker. J'étais naturel. Des stories un peu clash, des choses comme ça, des choses qui me hérissent toujours le poil, que je vois dans le coaching ou dans le milieu du fitness maintenant. J'en parlais et puis écoute, la mayonnaise a pris. Et du coup j'ai pu commencer vraiment à vivre du coaching à distance à partir de 2017.
Ok.
Ouais.
Donc, ok, et pour revenir à aujourd'hui, c'est quoi les différents types de coaching que tu proposes à l'heure actuelle?
Alors là maintenant, je propose des coachings sans suivi ou avec suivi. Donc il y a le coaching avec suivi, c'est le plus poussé chez moi. C'est-à-dire que c'est moi qui gère la partie nutrition, c'est moi qui gère la partie planification d'entraînement. Il y a des bilans avec moi par mail via un formulaire une fois par semaine. Ils ont accès à toute une vidéothèque de mouvements. De tous les mouvements qui sont dans le programme, et de toute façon, globalement, beaucoup de mouvements de muscu. Et puis aussi, on a rajouté la version maison par la force des choses en 2020, donc on a la bibliothèque des mouvements maison avec les élastiques. Donc ça, c'est le plus poussé avec moi. C'est-à-dire qu'ils peuvent me contacter 7 jours sur 7, du boss et moi. Donc on peut discuter par message WhatsApp, par mail. Il ne se passera pas une journée où je ne répondrai pas, sauf événement familial. Ça, c'est le plus haut. Le plus high ticket que j'ai, on va dire.
Okay.
Et puis, y a tous mes programmes aussi qui sont sans suivi. C'est-à-dire que c'est des programmes que j'ai mis sur ClickFunnels, qui ont objectif perte de poids ou prise de muscle ou les pertes de poids un peu rapides. Des fois, t'as quelques kilos à perdre, t'as un mois pour les perdre. J'ai fait un programme pour ça aussi. Donc ça, c'est vraiment, il y a aucune intervention de ma part. Par contre, c'est blindé de vidéos que j'ai fait tout expliquer. Il y a des planifications qui sont optimisées pour perte de poids, prise de muscle. Elles ne sont pas personnalisées parce que c'est un programme sans suivi.
Ouais, c'est la vente de programme classique, quoi.
Ouais,
D'accord. Ouais.
C'est le programme classique. Juste à la différence que j'ai fait, c'est que j'ai mis un calculateur de diète personnalisé.
C'est-à-dire
que tu rentres ton poids, ta taille, ton âge et ton objectif, et le calculateur va te proposer va te donner tes macros à consommer, va te proposer des différents menus.
D'accord. Ok.
Ouais, donc c'est quand même assez poussé pour un truc qui est sans suivi, et malgré tout ça, je réponds toujours systématiquement aux mails avec des questions relatives au programme. Je ne fais pas de la personnalisation, mais toutes les questions qui sont relatives au programme, j'y réponds toujours.
Et de ton côté, parce que c'est intéressant de voir que toi, t'es déjà passé à la partie vente de programme, entre guillemets, en automatique déjà fait, parce que aujourd'hui, je pense que ça, tu l'as mis en place que quand tu as eu une base solide de clients en ligne, et après, tu t'es dit, bah, ok, je vais pas pouvoir prendre 1000 personnes en coaching en ligne, mais par contre, je veux aider un maximum de gens à perdre du poids ou à prendre en masse sans que ce soit là. Donc, tu ouvres cette partie-là. Et du coup, de ce que j'ai compris, c'est que tu fais plus de coaching en physique à l'heure actuelle.
Plus du tout.
Terminé. Ok.
Plus du tout. Ça peut arriver à quelques très rares occasions, mais vraiment pour aider quelqu'un.
Ok.
Ouais. Ça m'est arrivé de le faire, par exemple, sur des gens qui passaient leur diplôme de coach et qui avaient 2-3 difficultés sur certains mouvements, tu vois, des points techniques à corriger, des choses comme ça, je l'ai fait. Ou des gens qui étaient vraiment, qui avaient des gros challenges, par exemple, des grosses pertes de poids à faire, auquel cas je viens, mais non, sinon je fais plus, okay. Faute de temps, faute de logique aussi, parce que je préfère rester chez moi.
Non, mais c'est intéressant justement d'avoir ce point de vue-là, parce que c'est aujourd'hui, là tu as atteint un stade dans le coaching où tu as pas mal de clients en coaching en ligne, et maintenant la stratégie que tu as, l'idée qu'il y a derrière ta tête, c'est de dire okay, comment je peux aider un maximum de personnes avec le peu de temps qui me reste.
Complètement. Et c'est passé par l'automatisation de certains process. Ouais. Effectivement. Des trucs tout cons, hein, mais comme automatiser quand quelqu'un t'achète un suivi. Bah déjà, la création du site, puisqu'à la base, j'avais pas de site. Voilà. Donc, il y a eu la création du site. C'était déjà, ça m'évitait de répondre et de répéter X centaines de fois la même chose sur mes tarifs, sur ma façon de fonctionner, les différents produits que je proposais. Donc, l'arrivée du site. Ensuite, après l'arrivée du site, tu t'aperçois que c'est bien. Déjà, tu n'as plus à donner de renseignements puisque ta vitrine est là. Mais il faut aussi des process qui soient automatisés quand les gens t'achètent un programme, quand les gens t'achètent des e-books, parce que je vends des e-books aussi, quand les gens t'achètent un suivi, il faut qu'il y ait un questionnaire qui parte. Donc, tu vois. Et puis, bah, petit à petit, je me suis renseigné au fur et à mesure du temps pour automatiser ces tâches-là. Et effectivement, bah, tu t'aperçois qu'en grattant une automatisation par-ci, une automatisation par-là, tu gagnes beaucoup de temps.
Tu gagnes énormément de temps, oui.
Bien sûr. Donc, du coup, je me fais une obligation, quoi qu'il arrive, de répondre quotidiennement à mes élèves. Donc, je suis pas devant mon téléphone toutes les 30 secondes à répondre, mais je répète au moins sur WhatsApp au moins 3 fois dans la journée. Tu vois.
Okay.
Donc, je fais des réponses, quoi qu'il arrive, tous les jours. Ça aussi, je m'occupe de ma fille. Mais du coup, bah, ça me permet d'être peut-être des fois un peu plus efficace, répondre peut-être un petit peu plus rapidement, ou même d'un point de vue familial, ça me permet tout simplement de passer un peu plus de temps avec ma fille.
Ouais. Et justement, après, quand on va parler des outils que tu utilises, ton site web, etc., aujourd'hui, tu vois, nous, par exemple, on fait un gros taf d'éducation parce que toi, ton côté, tu as une mentalité à regarder ce qui se passe du côté US. Du coup, pour toi, dans ta tête, c'est logique d'investir dans un site web, dans des process d'optimisation. Mais tu vois, ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, tu as énormément de coachs qui ne comprennent pas encore l'intérêt d'avoir un site web. Tu vois, tu en as beaucoup qui ne comprennent pas l'intérêt d'avoir des réseaux. Et encore, c'est la bataille encore, je peux te dire, vu qu'on est dedans avec l'application, mais énormément qui ont du mal à se dire je vais passer sur du coaching en ligne. Quand on va parler d'investissement, ils vont... Parce qu'à chaque fois dans ce podcast, je pose une question, c'est que c'est à chaque fois qu'on arrive sur la partie outils, c'est combien tu investis et combien ça t'apporte en temps. Parce que le calcul, il n'est pas toujours fait par les coachs sportifs de dire bah, j'investis tant pour avoir tant. Et ça, c'est aussi dû aux différentes formations qui sont proposées, parce que tu as fait une formation commerciale marketing de ton côté.
Ouais,
et puis sur les nous. Ouais.
Je pense qu'il faut sortir quand tu es coach. Et que tu te développes vraiment, il faut arrêter de te dire que l'argent que tu rentres, c'est ton argent. Il faut être un moment cohérent et te dire, ok, moi, je veux gagner toujours plus. On est humain. Hein. Je fais du bon boulot, je pense que je mérite de gagner plus. Donc, à un moment, sois cohérent. Tu rentres, je sais pas, tu rentres 4000 euros dans le mois ou 3000. Garde une part pour toi, ne sois pas gourmand et réinvestis sans cesse. Parce que réinvestir, c'est pas de l'argent qui part bêtement. Réinvestir dans les bons trucs, c'est de l'argent qui va rentrer, c'est du temps que tu vas économiser, il y a une logique derrière. Et en fait, je pense que le souci de beaucoup de monde, c'est quand ils vont rentrer 1 euro, ils vont garder 1 euro pour leur poche. Ils vont payer éventuellement leur charge de ça qui va payer beaucoup. Il y a pas mal de coachs en auto-entrepreneurs, donc ils vont payer leur URSSAF, ouais. Ou quand t'es en société, bah, tu payes ta TVA, tu payes, etc., tu payes tes charges. Mais du coup, ils vont rentrer 4000, il va leur rester 2008 à la fin du mois, et 2008, ça va être le salaire. Non, il vaut mieux te serrer la ceinture au début et réinvestir sans cesse. Parce qu'à un moment, tu as une tranquillité d'esprit quand tu as investi. Je vais pas dire que c'est de l'argent qui rentre tout seul, mais tu as eu un tel gain de temps, même si ton investissement t'a pas rapporté. Indirectement, il te rapporte puisque tu gagnes tellement de temps en automatisant dans un site web, dans des process d'automatisation, etc., etc. De toute façon, ton temps va te rapporter de l'argent puisque tu seras plus productif pour faire d'autres choses.
Ouais.
T'es plus productif. Tu te dégages 1 heure dans la journée. T'as 1 heure de plus pour créer du contenu pour tes réseaux sociaux. Tu vois? Tu te dégages 2 heures dans la journée. Mais imagine avec 2 heures en plus dans ta journée ce que tu peux faire.
Ouais.
Tu vois, donc,
et même au-delà de ce que tu peux faire, même si tu veux pas réinvestir dans ton business, comme tu dis, c'est 2 heures de plus passées avec ta fille, par exemple.
Ça,
tu vois. Et ça, c'est quoi? C'est inestimable. Tu vois ce que il y a plein de. Et c'est toute cette partie éducation qui est un petit peu manquante ici, qu'on remarque ici, ouais. Ici sur la partie France surtout.
Moi, je pense que les 100 premières années où tu as ta boîte, il faut... je sais que psychologiquement, ça doit être dur à se dire, tu vois. Mais moi, je suis parti avec cette mentalité-là. Les 4-5 premières années où tu as ta boîte, ta priorité doit être de réinvestir. Tu vois. Même si tu rentres beaucoup de thunes. Réinvestis. Moi, j'investis beaucoup. J'investis pour me former. J'ai investi pour mon site web. J'investis beaucoup pour me former. J'ai investi pour mettre des process en place. Tu vois, il y a de l'argent qui est rentré, mais il faut le faire travailler. Il y a des gens qui ont épargné. L'épargne d'une entreprise, c'est ton investissement. C'est la manière dont tu fais travailler ton argent. Et des fois, tu vas te casser les dents. Et des fois, ouais. Tu vas avoir un coup dans le vent. Et 2 fois sur 10, tu vas avoir investi dans le vent. Et 8 fois sur 10, tu vas faire un investissement gagnant. Mais il faut pas garder l'argent. Faut pas le laisser dormir sur un compte. Faut pas le dépenser. Faut pas le dépenser inutilement. Enfin, si c'est pour toi, c'est pas inutile. Mais il faut réinvestir l'argent de la société. Faut vraiment même si tu es coach, même si tu es auto-entrepreneur, t'es un chef d'entreprise. Et si tu veux vraiment bien gagner ta vie, ça passe par le biais de l'investissement.
Ouais.
À ta hauteur, tu vois. Mais dès que tu peux, forme-toi. Achète des formations. Fais appel à des formateurs. Tu vois, j'ai eu un formateur à je me suis formé beaucoup en web marketing et j'ai un formateur qui m'a coûté franchement les yeux de la tête. Mais je ne regrette pas un centime que j'ai dépensé avec parce que je les ai largement récupérés très très vite.
Mais surtout que c'est les connaissances, des tactiques que tu peux garder tout au long de ta vie. En fait, une fois que tu les as appris, c'est pour toi, tu les remets en place, t'apportes généralement x10 de ce que tu as investi et c'est. Et tu vois, cette logique-là, elle est encore à pousser sur 90% des coachs sportifs francophones, français. Aujourd'hui, tu vois, ce qu'on remarque, c'est que les coachs qui sont dans cette mentalité-là, c'est ceux que tu vois le plus, en fait, sur les réseaux. Parce que ce qui se passe, c'est que tu fais en sorte de faire comprendre aux coachs sportifs, OK, le coaching en ligne, par exemple, c'est pas aberrant. Le fait de investir dans ton site web pour avoir un site web qui va te servir de vitrine, tu pourras mettre ta FAQ dessus, tes présentations, tes offres et te libérer du temps au lieu de répondre à chaque DM. Tu vois, c'est tous ces trucs à mettre en place. Mais voilà, c'est encore du temps et de l'éducation à faire sur le marché du coaching francophone aujourd'hui. Mais de ton côté, il y a une question qui revient souvent. Toi, de ton côté, combien est-ce que tu factures tes clients, si tu peux le dire ou non? Parce que la question qui va arriver après, c'est comment est-ce que tu as établi la valeur de tes coachings aujourd'hui?
Alors, si jamais je me déplace en salle, ce qui est extrêmement rare, hein, que je te dis, je suis au minimum à 100 euros.
D'accord. Ouais.
Voilà. Je suis pas parmi les moins chers, mais voilà, tu fais une heure avec moi. Tu vas sentir passer. Et qui plus est, même les gens qui ont fait 2-3 heures avec moi, tu vois, derrière, par la suite, ils posent des questions via WhatsApp, des choses comme ça, je refuse pas l'information. Merci. Même des anciens élèves, je refuse pas. Après, sans tomber dans l'abus non plus, mais je refuse pas l'information. Donc voilà. Et sur le coaching en ligne, je suis à 150 euros le mois.
Ok. Ce qui est pas excessivement cher non plus.
Non.
Pas du tout même.
Non, j'ai pensé à monter un moment. Je suis même un peu moins cher quand les gens prennent au moins plusieurs mois d'affilée.
Ok.
Aux alentours de 125 euros. J'ai pensé à un moment à monter. Et j'aurais pu. J'ai pensé à monter même à 200 ou 250. Le fait est que, j'ai une approche du coaching où je veux pas prendre de melon. et je veux rester grand public parce que c'est mon gagne-pain, je veux gagner ma vie, mais je veux quand même pouvoir aider aussi un maximum de personnes.
D'accord, ok, je vois.
Ouais, et en passant à 200 ou 250 euros par mois, je ferme la porte à un certain nombre de personnes qui méritent tout autant d'être aidées que quelqu'un qui pourra me payer 200 ou 250 euros par
mois. Ok, et du coup, toi, quand t'as fixé tes prix, parce que l'une des plus grosses problématiques aujourd'hui d'un coach sportif qui débute ou non, c'est de fixer la valeur de son service et de ses coachings, tu vois. Et ça, c'est humain, que ce soit coach ou pas, en fait. À chaque fois, il y a ce syndrome de l'imposteur qui nous prend quand on vend nos propres services. Du coup, tu sais pas à quel point tu dois te facturer. Comment est-ce que toi, tu t'es débrouillé pour trouver ces prix-là, te fixer ces prix-là et justement les assumer, te baquer après ça?
J'ai fouiné chez les autres au départ, comme tout le monde fait.
Ouais.
Même si quand j'ai commencé en 2016-2017, je n'étais pas non plus des milliards à faire du sujet en ligne, mais j'ai regardé un peu ce que les autres faisaient. Moi, j'ai démarré à 90 euros par mois.
Ok.
Tu vois, et pour te dire, j'ai des élèves que j'ai depuis 4 ans qui sont toujours à 90 euros par mois parce que, par principe, ils sont
les premiers. Tu ne les augmentes pas, bien sûr.
Ils augmenteraient jamais. Mais après, c'est délicat parce que tu vois un peu tout. Tu vois un peu tout en termes de prix. Ça monte jusqu'à des 200 balles. Moi, par rapport à la quantité de travail que ça me demande et au résultat que je suis capable de leur donner, j'estime que même 150 euros, je suis, pas dire bon marché, mais c'est très honnête. J'ai voulu moins me fixer sur un prix qui m'était rentable pour moi quand même. Donc 150 euros, c'est honnête. Même 125, quand tu fais de la quantité, c'est honnête. J'ai voulu me fixer sur la qualité de mon taf, le temps que ça me demande. Je prends pas mal de temps quand même tous les jours pour répondre sur WhatsApp, etc. Mais ce qui était important pour moi, c'était de trouver le compromis entre quelque chose qui n'était pas trop peu cher par rapport au service que je propose, parce que je pense pas être un mauvais coach. Donc y a une gamme de prix quand même que je me dois d'appliquer. Je sais pas si ça se dit, mais par respect vis-à-vis de mon travail et de mon engagement.
Par branding, par tout ça, partout.
Voilà, tu vois. Et puis j'ai pas voulu taper dans le prix trop haut parce que je trouve que c'est fermer la porte à des gens qui pourraient avoir besoin de toi. Et même si on est coach, qu'on est là pour gagner notre vie, et un coach qui gagne bien sa vie quand il fait bien les choses, il y a une part, part sociale où j'ai cet amour d'aider les gens. Donc, je sais que même à 150 balles, je ferme la porte à des gens, mais je veux pas descendre non plus en dessous parce que je fais du bon boulot.
Ouais. C'est quoi justement les ton audience, ta cible, ta niche? C'est quoi les gens qui viennent voir Bika?
Alors, de manière très très étonnante, quand j'ai lancé le coaching en ligne, c'était pas mal de mecs qui voulaient se muscler, ce qui correspond à mon physique. Et en fait, avec le temps, moi, mon créneau depuis que je suis coach, ça a toujours été la perte de poids chez les femmes. Tu vois, c'est aux antipodes de mon physique.
Ouais.
Et du coup, un jour, j'ai posté un avant-après d'une de mes élèves, mais qui avait grave bien bougé, tu vois. Je l'ai posté sur Insta. Et depuis, j'ai que des femmes, mais peut-être 70% de mes élèves sont des femmes. Et c'est pour de la perte de poids.
Mais de toute façon, c'est ça, c'est, j'ai les chiffres, c'est 2/3 des coachés sont des femmes. Aujourd'hui,
ouais,
en France, tu vois.
Oh ouais, bon,
et de toute façon, je pense que les hommes, ils sont encore en mode un petit peu égaux de se dire, je prends un coach. Je sais pas de ce qui se passe là-dedans, mais
je sais pas.
Je vais aller chercher un coach. Non, je sais faire les mouvements tout seul, pas besoin de coach.
Ouais. Moi, j'ai pas hésité à faire en 2004 et c'est grand bien m'en a fait parce qu'il m'a appris pas tout ce que je sais, mais il m'a appris grave des trucs. C'était un précurseur pour son époque. Personne n'a, mais il est décédé depuis. Mais c'était un précurseur, il m'a appris beaucoup de choses. C'était le premier mec qui me parlait de cycler les glucides pour perdre du poids, c'est le premier mec qui me parlait de diète cétogène, c'est le premier mec qui m'a parlé de plein de trucs, tu vois. Donc moi, j'ai pas eu cette fierté de, bah non, tu vois, je pense qu'il faut sortir, quand tu veux un coach, il faut sortir de ce carcan, je suis un homme, il a rien à m'apprendre, je suis une femme. C'est quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose. Je pense.
Évidemment, c'est de comprendre pourquoi c'est, j'ai pas les chiffres des États-Unis. Mais en tout cas, en France, c'est deux tiers des coachés sont des femmes, et effectivement, pour de la perte de poids.
Ouais.
Donc, c'est le plus grand segment du coaching ici. Toi, de ton côté, donc au début, c'était des personnes qui voulaient te ressembler. Maintenant, c'est des femmes qui veulent perdre du poids.
Ouais.
Comment aujourd'hui, tu fais en sorte d'avoir et de toucher de nouveaux clients?
Je suis resté sur ma ligne de conduite. Je suis resté sur ma ligne de conduite de départ sur les réseaux sociaux, qui était de m'opposer viscéralement à ceux qui te vendent du rêve, à ceux qui essaient de compliquer le coaching, les process de perte de poids, les process de prendre du muscle et tout ça. C'est pas simple, mais c'est pas archi compliqué non plus, tu vois. Donc je suis parti vraiment sur cette logique de donner beaucoup de contenu gratuit et d'expliquer au mieux les choses à ma manière. Et je me suis passionné pour essayer de trouver des façons d'expliquer très simples. Donc si tu regardes sur ma chaîne YouTube, j'essaie de prendre des concepts qui peuvent paraître un peu compliqués, les décortiquer, les mettre à plat et les simplifier pour les rendre accessibles. Et en fait, je pense que c'est ce qui euh, je pense que c'est ce qui fait que ça me rapporte du monde sur les réseaux, parce que ça attire du monde sur ma page ou sur ma chaîne YouTube. Et du coup, j'ai beaucoup de retours, moi, en DM, j'ai beaucoup de retours sur ma chaîne YouTube, je reçois beaucoup de mails, le formulaire de contact, pour me dire merci, ok, ça, je comprenais pas, grâce à toi, j'ai compris. Donc,
c'est les réseaux sociaux qui te permettent d'acquérir les nouveaux clients.
Enfin, pas que.
Je pense que de toute façon, c'est le bouche à oreille aujourd'hui avec le nombre de clients que tu as. Je pense que ça joue énormément. Et ça, je sais pas si j'ai sorti la vidéo à ce niveau-là ou pas, mais le bouche à oreille dans le coaching sportif, c'est l'arme en fait la plus redoutable qui soit.
Après, quand tu prends un peu d'expérience, tu commences aussi à faire de la capture de leads. Tu commences à faire des campagnes d'emailing. Tu commences à faire des newsletters. Tu commences à faire des choses comme ça, chose que j'ai faite, et effectivement, c'était intelligemment fait, c'était rentable.
Et du coup, toi, quand tu fais, par exemple, parce que toi, de ton côté, tu as aujourd'hui 30 000 abonnés sur YouTube. Sur Instagram, je crois que t'es à 115 000, il me semble. 113 000, ouais.
114.
Ouais, du coup, aujourd'hui, toi, de ton côté, là, il y a une partie de tes clients qui te trouvent via YouTube et via Instagram. Ouais. Pour YouTube, toi, quand tu décides de faire une nouvelle vidéo, la dernière que tu as mis en ligne, c'est les boissons light font grossir ou pas. C'est quoi le...
C'est des copains avec cette vidéo.
Ok. Et toi, quand tu décides de faire une vidéo, c'est tu t'analyses les mots-clés ou tu te dis, ok, je vais traiter de tel sujet, je le fais. Ou
c'est Il y a deux choses. Il y a mon impulsivité.
Ok.
Je peux voir un truc qui m'a énervé sur les réseaux et je suis obligé de donner mon avis. Attention, j'ai pas la science infuse. Hein. Je peux me tromper, mais mes vidéos sont quand même assez bien documentées. Donc, je prépare pas mes vidéos à l'arrache. Parce que justement, mon côté impulsif voudrait que je les fasse à l'arrache et que je parle vite. Or, je prends le temps de
documenter.
De documenter, de sourcer vraiment de manière poser ce que j'ai dit pour clore le débat. De toute façon, j'ai pas la science infuse du tout, je peux très bien me tromper. J'ai déjà dit des conneries et j'en répéterai encore certainement dans le futur. J'en dis le moins possible, mais on en dit tous. Mais en tout cas, quand je fais une vidéo YouTube, c'est très documenté, c'est très sourcé. Il y a un gros travail de recherche derrière. Donc souvent, je prends un phénomène d'actualité ou quelque chose qui m'a pas plu, sur lequel il y a des trucs que tu vois, des fois, ça reste un peu en boucle dans ta tête. Tu te dis, comment oser dire une connerie pareille? Et si je sens que ça peut être nocif, surtout pour les pratiquants, je rentre dedans et je fais la vidéo. Et deuxièmement, j'ai quelqu'un qui bosse pour moi, qui fait des recherches sur des thématiques intéressantes parce que des fois l'inspiration elle est pas là. J'ai quelqu'un qui bosse pour moi sur cet aspect. Mais sur l'aspect recherche. Par contre, toutes les vidéos, tout le contenu. Le travail de recherche et tout est uniquement de là.
Ok, du coup, en fait, la personne qui t'aide là-dessus, c'est pour trouver les bons mots-clés, les bonnes thématiques à traiter. Ok, d'accord. Ouais. Donc, c'est vraiment, du coup, encore un investissement sur cette partie-là qui est ultra intéressante, ultra pertinente. Pour les coachs qui nous écoutent de bien faire comprendre l'importance des différents investissements.
Oui, encore une fois, tu vois. Mais en fait, je veux dire, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 4 ans, franchement, j'ai dû faire une vidéo par an pendant je ne sais pas combien de temps. Mm. Et puis, en fait, je m'aperçois que faire des vidéos YouTube, ça me plaît beaucoup. Entre 7 et 9 minutes, hein, c'est rare que je mette en plus. C'est le meilleur moyen de condenser de l'information en moins de 10 minutes, je te fais passer une info. Et ça me plaît. Et le retour que j'en ai me plaît beaucoup.
Tu apportes de la valeur, tu te places comme un expert, et en plus, ça te génère de nouveaux clients.
C'est ça. Là, tu vois, j'ai lancé ma marque de compléments. Mm-hmm. J'en ai parlé sur Instagram, ça a apporté ses fruits. J'en ai parlé sur YouTube, ça a apporté ses fruits d'une autre manière. Mm. Donc c'était bien. Mais ouais, non, j'ai pas hésité. En fait, je me suis pas posé la question. À un moment, là, je me suis mis sur YouTube, ça fait quelques mois. Et je me suis dit, ok, bon, tu vois, tu réagis à l'impulse et des fois, tu vois une thématique, donc tu rentres dedans, mais j'ai pas spécialement le temps. Donc je me suis dit bah non autant puis pour le référencement de la chaîne etc tu vois, donc j'ai pris je pense avec quelqu'un qui s'occupe de ça et oui bah je gagne du temps là-dessus aussi là.
Faut
investir.
Non mais t'as raison, c'est quelque chose que j'admire, c'est vrai que je voulais t'avoir aujourd'hui parce que tu vois en fait les les différents points qui sont gérés, tu vois, le ta stratégie sur sur YouTube et même sur Instagram. Aujourd'hui, Instagram 113 000 abonnés pour 336 publications, c'est quand même du sacré taf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, tu vois. Donc, d'ailleurs, quand toi tu fais tes posts Instagram, c'est quoi la stratégie que tu as derrière? Est-ce que tu postes ce que tu as envie de poster ou tu as une trame ou tu as automatisé à l'avance tes posts? Comment ça se passe à ce niveau-là?
Okay. Non, j'ai une époque, et ça c'est mon défaut sur Insta, c'est mon manque de régularité.
Ok.
Et, parce que sur Insta, je ne veux pas déléguer.
D'accord.
Je ne veux pas déléguer parce que j'ai une façon de m'exprimer, j'ai un phrasé, j'ai une touche. J'ai des community managers qui m'ont proposé, etc. Mais on m'a dit, ok, tu nous... À ce moment-là, ouais, on poste pour toi, on organise les jeux concours et ça. Mais quand t'as quelqu'un qui poste pour toi, c'est pas toi.
Mmh.
Et je pense que ce qui passe bien justement chez moi, c'est mon authenticité.
Mmh.
Via mes posts. Donc du coup, après on me dit, bah ouais, mais si tu veux, bah, à ce moment-là, tu nous fournis le contenu, tu nous fournis les textes. Et puis voilà, bah, mais si je te fournis les textes, c'est pourtant que je les passe moi-même. Donc, ouais, j'économise ça.
Sur le process que tu as sur Instagram, est-ce que tu postes quand tu as envie de poster ou tu te prends un jour dans la semaine où tu dis bah, aujourd'hui je vais poster ça, ça et ça, et tu écris tes posts à l'avance et tu les mets ou bien c'est impulsif comme tu disais?
C'est impulsif et ça ne devrait pas l'être.
Okay.
Mais c'est impulsif à ce stade, ouais, c'est impulsif. Je ne sais pas. Avant j'étais hyper régulier et puis les choses de la vie faisant. Je suis bientôt plus productif maintenant sur YouTube
que sur
Instagram, ce qui est fort dommage parce que j'aime beaucoup le rapport que j'ai avec ma communauté sur Insta. Et ça, c'est vraiment, tu vois, le process qu'il faudrait que j'automatise en plus, si je pouvais, ce serait préparer mes posts à l'avance et que ça se déclenche.
Ok.
C'est mon talent d'Achille.
Ça, c'est, dis-toi que ça, on est dans la même problématique, nous, avec Jim Key, avant ce mois-ci, où on était en flux tendu, tout le temps. Et là, le truc, c'est qu'on profite du mois d'août, bah, justement, pour tourner l'épisode avec toi aujourd'hui, et en fait, préparer tout le contenu jusqu'à décembre. Et au moins.
Si tu prévois bien, tu peux prévoir 6 mois de contenu. Hein.
Ouais, exact.
Tu vois, mais comme en plus, des fois, je poste une photo, après, je dis non, j'aime pas. Je suis un peu exigeant aussi. Et des fois, il y a des photos que j'ai postées parce que je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai posté, il faut que je poste, mais que j'aime pas particulièrement. Donc, j'essaie de m'organiser pour avoir des shootings photos de temps en temps.
Ouais.
Et puis avoir du contenu à poster. Et là, le pire, c'est que j'ai du contenu d'avance. C'est juste que j'y pense pas.
Et surtout, ce qui est fort quand tu fais des vidéos YouTube, je sais pas si c'est un truc que tu mets en place, mais... T'as une vidéo complète que tu peux rediviser en une dizaine de posts. Si tu regardes tu vois, ça c'est un levier qui est énorme, où tu prends une pièce de contenu, la vidéo YouTube, qui dure 10 minutes. Dans la vidéo YouTube, t'as abordé 3-4 thématiques et chaque thématique, en fait, peut te faire un post, deux posts, trois posts que tu peux mettre sur Instagram, en article de blog, en réels, en story.
Ouais, j'en ai plein là qui sont prêts. J'ai fait du découpage. J'étais parti en vacances il y a pas longtemps, j'avais quelques heures d'avion, j'ai pris l'ordinateur, j'ai pré-découpé. Donc, c'est prêt. Mais, par contre, ce qui est bizarre, c'est que tu vois, j'ai dû faire ça deux, trois fois. Là, je crois que l'algorithme n'a pas kiffé. Parce qu'on a eu peu de visibilité.
Bah, après, c'est ce qui se passe, c'est que ce que j'ai remarqué avec le temps où j'utilise les outils d'automatisation, c'est que aujourd'hui, pour Facebook et Instagram, je passe directement par le Facebook Creator Studio, par l'outil qui est utilisé par Facebook et plus par Buffer, par exemple. Buffer, j'utilise pour les posts LinkedIn, pour Twitter, etc. Et à chaque fois, je fais en sorte, en fait, de poster à une heure qui est pas robotique. En gros, je poste à 17h57 ou bien à 18h03. Non, pas à 18h pile, pas à 18h15, jamais. Tu vois. Donc, c'est 18h16, 18h14, 18h17 pour essayer de triquer un peu le...
Ouais, mais très très bien pensé.
Tu vois, histoire que ça se dise pas que c'est robotisé et qu'à chaque fois, surtout que je prévois mes posts, là c'est prévu 3 mois à l'avance, que en fait, tu le fais pas. Et la connerie aussi qu'on faisait auparavant et qui tapait dans le reach, c'est qu'il y avait que les posts qui étaient automatisés, vu que tu peux pas encore automatiser les stories, etc. Et du coup, il y a des jours où tu fais pas de story parce que tu as automatisé tes réseaux et t'oublies de faire les stories, ce qui est con parce que là, il comprend tout de suite que, ouais, en fait, t'as juste automatisé des posts et que t'es pas là. Alors que si t'automatises des posts, il faut aller commenter les publications des gens, les liker, faire des stories, en fait, montrer que t'es encore sur la plateforme.
Ouais,
que
et tu fais pas, oui, skill to reach. Exact. Non, c'est, mais faut que je m'y mette. Parce que même si tu plais pas à l'algorithme, sur 113 000 abonnés, j'arrive quand même à avoir une portée, d'un minimum de gens qui voient. Donc voilà. Mais vraiment, là, c'est, tu sais, je suis papa. Et, je mets à cœur de beaucoup m'occuper de ma fille aussi. Donc, des fois, bah oui, entre choisir la laisser maquiller ou faire un post sur Insta, bah, je privilégie ça. Et ça, c'est marrant qu'on en parle.
Si tu fais un post maquillé.
C'est prévu, il y a des dossiers, hein, tu sais. Ma femme ne me rate pas, hein, quand t'es ma fille, elle maquille ou qu'elle m'habille, t'inquiète pas que ma femme, elle a du dossier.
Bah, vu que t'as une audience qui est quand même assez féminine pour d'avoir de bois, ça peut passer. Hein.
Ça peut passer. Donc, voilà, mais voilà. Non, moi, mon prochain cheval de bataille, ce sera d'être plus présent sur Instagram, mais de garder, faire les posts moi-même. Et effectivement, en plus, la dernière fois, quand on s'était parlé, tu m'avais parlé de Facebook Creator Studio. Il faut que j'étudie ça de près.
Après, ce qui est relou avec Facebook Creator Studio, c'est que je pense, en fait, tu peux, c'est 30 posts, ou c'est, je sais plus si c'est 30 posts que tu pouvais faire, ou à 30 jours. Du coup, c'est, faudra revérifier, j'ai plus le truc là-dessus, mais je pense qu'il y a une limite, en fait, de publication que tu mets à un certain moment. Donc, faudra voir le souci. Et j'ai vu qu'aussi, tu proposais des Reels. Est-ce que t'es sur TikTok, Karim?
Non.
Ok. Pourquoi? Pourquoi? Ok, d'accord. Alors que, j'en parlais avec Claudia. Je sais pas si tu connais Claudia, personne traîne. J'ai coaché un coach sur TikTok. Ouais. Et il est passé de 0 à 30K en moins d'un mois, tu vois. Et le trafic que ça pousse. Et en plus de ça, tu fais déjà des Reels. Donc, en fait, t'as déjà du contenu. Enfin, t'en as fait un, pour le coup, que j'ai vu là.
J'en ai d'autres.
Et en plus, tu vois, là, tes Reels sur Instagram, ils ont fait 121K sur Instagram. Je t'assure que c'est 1 million sur TikTok.
Ah ouais? C'est plus. En fait, j'y arrive pas, parce que j'ai un a priori sur TikTok.
Tu sais que ça, c'est un truc de ouf, parce qu'on a tous juste a priori de dire que c'est un peu de gamin, ou il y a que des trucs qui dansent, peu importe.
Au début?
Ouais, mais là, la moyenne d'âge, c'est 24 ans.
Ouais.
C'est ouf. Et tu sais que, avec l'autre podcast que j'ai qui est dédié aux entrepreneurs, on a mis du contenu dessus. C'est des extraits de podcast où on parle business, on parle chiffres, on parle entrepreneuriat. Et t'as des vidéos qui ont fait 300 000 vues. Tu vois? Et alors que c'est de base, tu dis qu'il n'y a pas ce public-là sur TikTok, alors que si. Et en fait, TikTok, comment je le vois et comment je conseille aux coachs de le faire, c'est exactement pareil que YouTube, parce que fait, t'as pas la recherche. En fait, TikTok, c'est même pas un réseau, c'est une plateforme de contenu. C'est une plateforme de contenu qui est, pour moi aujourd'hui, c'est la plateforme la plus puissante de toutes. Parce que du jour au lendemain,
c'est comme ça qu'elle est actuellement décrite, en tout cas.
Ouais. C'est clairement la plus puissante parce que tu peux passer de. Aujourd'hui, les coachs qui débarquent, tu peux passer d'un coach qui n'est pas connu à une vidéo qui te fait exploser, qui te fait rediriger sur Instagram, qui te fait exploser ton business, tu vois. Ouais. Et là où c'est pertinent, tu vois, surtout pour toi, c'est dans le sens où tu as des programmes, en fait, déjà tout fait automatisé. Ouais. Ce qui fait que quand tu balances une vidéo et si elle pète sur TikTok et que le lien qui est dessus, c'est un lien qui mène à des programmes déjà tout faits, par exemple, je pense qu'il y a moyen d'avoir un gros là-dessus.
Ouais.
Surtout que le contenu, tu l'as déjà.
Ouais, je vais m'y repencher parce que tu es pas le premier à me dire ça et j'en parlais avec un pote il y a 3-4 jours de ça. Et il me posait la même question. Pourquoi t'es pas sur TikTok? Je lui dis, je peux pas. J'ai regardé au début, ça me plaît pas. Il me dit, mais attends, t'as regardé il y a combien de temps? Je lui dis, mais j'ai regardé il y a à peu près genre un an, tu vois. Non,
c'est plus pareil. La même chose.
Il y a des coachs sur TikTok, il y a des. Effectivement, j'ai regardé et c'est vrai que. Je veux beaucoup regarder du côté US. Et effectivement, oui, j'ai vu que même des coachs assez connus maintenant sont sur TikTok.
Et pourquoi? Parce que justement, tu vois, ça permet de toucher. Après, les followers sur TikTok, c'est pas important. Parce qu'en soi, TikTok, en fait, quand tu es dessus, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est divisé en deux. Il y a les pour toi et il y a les abonnés. Et généralement, en fait, les gens, ils se concentrent que sur les pour toi. Ils ne regardent jamais les abonnés. Donc, en fait, ce n'est pas le nombre d'abos qui est important, c'est le contenu. Et c'est comment tu fais en sorte pour rediriger le contenu qui passe vers une vidéo, parce qu'en fait, une vidéo, elle peut péter, elle peut faire 2 millions, ça peut te faire gagner que très peu d'abonnés. Mais le plus important, en fait, c'est de comprendre comment est-ce que tu fais passer le trafic de cette vidéo à ton Insta, par exemple, ou bien à ton site web.
Ouais.
Et c'est sur ça que tu peux passer ton Insta de 110 à 1 million, tu vois. Franchement, si tu rediriges bien le trafic, tu peux vraiment faire exploser. Surtout que tu as du contenu qui plaît déjà. Et ce que tu peux faire, toi, de ton côté, déjà, c'est de dire à l'audience que tu as sur Instagram, j'ai lancé mon compte TikTok, venez voir la première vidéo. Et je suis sûr que dans ton audience, tu as plein de gens qui se suivent. Et du coup, ça fait tout de suite monter la première vidéo. Ça te colle un petit tampon de validé dès que tu arrives sur TikTok en mode, OK, il a déjà sorti une vidéo qui a fait pas mal de vues parce que tu as redirigé ton audience. Mais après, c'est l'audience de TikTok qui va faire le taf. Et tu as beaucoup de femmes sur TikTok.
Il me semble que j'avais lu des statistiques sur TikTok aussi. Et c'est ce que j'avais lu aussi, que c'était très, très femme.
Et tu vois, pour un coach qui est sur les réseaux, c'est franchement quelque chose que moi je peux te conseiller en tout cas, parce que la stratégie réseau que tu as, et justement là où tu en es sur ton coaching, bah, tu es l'un des coachs aujourd'hui qui fait partie des plus avancés du marché français aujourd'hui. C'est clairement quelque chose à pas négliger. Et toi, ton côté, ok, disons que moi je viens de te trouver à travers ta chaîne YouTube ou à travers Instagram. Comment ça se passe le process en tant que nouveau client? Je dis, tiens, là, je te parle pas d'un programme déjà tout fait, je te parle d'un coaching personnalisé. Je viens vers toi et je t'achète un coaching personnalisé. Comment ça se passe le process?
Alors, il y a deux choses. Soit si tu demandes des renseignements, tu vas parler généralement à mon assistant.
D'accord.
Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de tri à faire dans les mails. Il y a énormément de mails qui arrivent tous les jours et il y a beaucoup de tri à faire. Donc, j'ai investi dans un assistant qui me trie les mails de tous les jours. Et ça, c'est pareil, c'était un gain d'heure de taf monstrueux. Donc, tu vois, alors si c'est une question basique, voilà, comment vous fonctionnez, il est tout à fait capable de t'expliquer, il va te répondre et il va t'expliquer la marche à suivre pour le coacher. Si c'est des questions un petit peu plus complexes, tu as une pathologie, tu as des allergies alimentaires, tu as un objectif, tu as une échéance, tu as besoin de me parler directement, le mail m'est transféré, c'est moi qui réponds personnellement. Il n'y a aucune question qui m'est adressée personnellement de manière assez poussée auquel c'est lui qui répond. Lui, il est juste là pour faire le premier triage. Donc ça c'est si tu me contactes par mail. Et puis ensuite, si tu m'achètes directement, dans tous les cas, si on conclut et que voilà, tu fais le coaching, dans tous les cas, tu seras redirigé sur mon site. Tu valides ton programme, ça passe par un mode d'abonnement. Donc soit en facturation via carte bleue direct ou PayPal, comme tu veux. Et de là, tu as un questionnaire qui, de manière automatisée, va t'arriver. Donc, un questionnaire assez complet qui va être ma base de travail pour que je puisse vraiment déjà définir ta demande, étudier d'éventuelles problématiques de blessures, etc., etc. Et puis, bah, après, créer ton programme en fonction de toutes les données que tu m'as fait. Et puis, bah, après, il y a un formulaire qui est en ligne qui s'appelle, tu dois connaître Cognitoform.
Ouais.
Que j'utilise pour faire les bilans.
OK.
Voilà. Donc les bilans, ça paraît, sont automatisés. c'est un formulaire qui est ouvert sur certains jours de la semaine.
OK.
Le bilan. Alors, c'est pareil, l'automatisation des bilans m'a permis de gagner du temps parce que les bilans, chez moi, je les fais, souvent le week-end.
D'accord.
Jusqu'au lundi maximum. Et en fait, en automatisant cette tâche-là, ça a obligé mes élèves à se mettre un cadre en se disant, ouais, il me prend les bilans, en gros, le samedi et le dimanche. Et jusqu'au lundi à telle heure. Parce que j'ai toujours instauré cette règle au début de mes coachings, mais, c'était vraiment, aléatoire. J'ai des gens qui m'envoient le mercredi, certains le jeudi, oh, j'ai oublié, etc. Donc, je perdais du temps parce que, moi, chez moi, chaque journée est calibrée.
Ouais.
Tu vois, donc le fait d'automatiser encore une fois cette tâche, d'avoir investi dans sur Cognitoform, m'a permis aussi de déléguer, de cadrer ça. Donc encore une automatisation qui était payante. Donc du coup, ça c'est le process une fois que tu arrives en coaching avec moi. Après, une fois que tu es en coaching avec moi, tu as automatiquement l'ouverture à ta bibliothèque de mouvement.
Ok.
Et c'est tout. Ce sera les seules choses qui sont dans le cadre d'un suivi automatisé. Après, tout est personnalisé, tout passe par la communication avec moi. Il n'y a aucun process qui seront automatisés par la suite.
Ok, d'accord. Et du coup, je viens de compléter le premier formulaire. Tu me poses quel type de questions dessus ? Des questions santé, le formulaire classique, j'imagine, santé.
Sur le formulaire, première, savoir si tu as des allergies alimentaires, savoir si tu as des problèmes de santé classiques, si tu as des problèmes articulaires, si tu as déjà eu des grosses blessures musculaires, si tu as une tendance à avoir une pathologie, l'imbago facilement, etc. Mmh. etc. J'essaie vraiment de connaître la personne, parce que la gamme d'exercices que je vais donner après va dépendre des réponses.
Ok. Et après ça, c'est quoi la suite ? C'est que tu m'envoies un premier programme ?
Ouais.
Ok.
D'accord. Je t'envoie un programme. En général, il me faut. Quand c'est pas trop le rush, en 24 heures, j'arrive à le faire. Mais généralement, on est plus sur 48, 72 heures pour pouvoir faire les programmes.
Ok. C'est un programme que tu m'envoies sur une semaine ou sur le mois complet directement ?
C'est sur le mois complet.
Ok.
C'est sur une planification entraînement. La planification entraînement, elle change avec moi toutes les 4 à 6 semaines. Parce qu'il n'y a pas besoin d'échanger plus que ça.
Ouais.
Vraiment, il n'y a pas besoin. Des fois, je n'échange même pas parce qu'elle manque d'efficacité, mais simplement parce que la personne commence un petit peu à s'ennuyer.
Pour pas que ce soit la routine à chaque fois, et changer d'exo. Voilà.
Mmh. Alors qu'en fait, t'as des gens qui te changent de programme d'entraînement toutes les semaines, ça sert à rien, t'as pas le temps de progresser, justement.
Mmh.
Donc, tu reçois ton programme d'entraînement, tu reçois ta diète aussi. Donc, chez moi, le programme change toutes les 4 à 6 semaines. La diète, elle sera modifiée qu'à partir du moment où elle fera plus effet.
D'accord.
Et si t'es avec moi en perte de poids, tu reçois ta diète initiale, et puis pendant 3 mois avec la même diète, tu perds du poids de manière régulière et ça bloque pas. On la change pas. Au bout de 3 mois, ça bloque. On fera les modifications nécessaires. Mais je ne touche pas les diètes tant qu'elles font effet.
D'accord.
Donc, par exemple, si on voit qu'avec la première diète, au bout de 2 semaines, ça n'a pas bougé. Physiquement, sur les photos, on voit aussi aucune évolution. Là, on la change. Mais il n'y a absolument vraiment rien d'automatisé là-dessus.
Ok. D'accord. Et toi, de ton côté, avec l'expérience, avec les 26 ans de musculation que tu as aujourd'hui et les plus de 20 ans, 15 ans de coaching
En coach, ouais. 16 ans.
16 ans de coaching. Est-ce que aujourd'hui, comment est-ce que tu as organisé tes différents programmes ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des bases de templates que tu t'écris à force d'avoir plein de clients, du coup, que tu réutilises, que tu remodifies, comment ça se passe?
Ouais, j'ai ma base de travail, j'ai des templates, je saurais même pas combien te dire j'en ai, En fait, c'est organisé sur mon ordinateur et c'est tellement organisé dans ma tête que je sais où aller par rapport au type de profil que.
Mmh.
Je sais pas, j'ai 600, 700 de
déjà après.
Mmh. Et voilà, femme, telle pathologie, tel objectif, je vais aller piocher là, et puis après je vois que attention, elle a des soucis à tel endroit, ok, donc ça je modifie, attention, elle a des soucis à tel endroit, ok, on modifie, ah là, elle a une pathologie qui fait qu'elle ne peut pas faire un 2 squats, ok, bah, pas, je fais squat, je modifie avec autre chose. Donc, ça c'est, mais ouais, j'ai une tonne de templates qui après j'ai toujours mes petits favoris parmi tous les programmes que j'ai, mais non, j'en ai.
Et tu vois, c'est aussi ça la force en fait d'avoir de l'expérience en tant que coach, d'avoir déjà un bagage. Ça, je l'ai remarqué parce qu'en fait, les gros coachs qui sont venus sur Jimki, première chose qu'ils faisaient, c'est que je me disais merde, ils rajoutent pas encore de clients alors que ça fait 6-7 jours qu'ils sont là. Mais en fait, les 6-7 premiers jours, c'est simplement de rentrer toutes les templates sur l'application.
C'est obligé.
tu vois. Et quand tu remarques ça, je me dis putain, en fait, le taf, en fait, ces années d'expérience condensées en fait dans des templates bien organisés, bien trucs, je dis putain, c'est
bah ouais, parce que tu gagnes un temps de ouf.
Ouais,
non, c'est sûr. Quand t'as d'expérience, tu vois que chaque personne est différente, mais tu vois avec le temps qu'il y a des types de profils.
Ouais,
tu vois, il y a des types de profils, quoi qu'il arrive. Il y en a 10, 20, 30, 40, mais il y a des types de profils. À la fin, au bout d'un certain nombre de pratiques, tu t'aperçois que chaque client rentrera toujours dans une des cases que tu connais.
Hmm.
Là, à ce stade, j'ai pas de surprise. C'est-à-dire que je ne tombe pas sur un cas qui est inconnu, qu'il y a quelqu'un qui réagit pas, et que j'arrive pas à comprendre pourquoi il réagit pas, tu vois. Après, c'est en affinant tes connaissances de la personne que tu arrives à exactement cerner les petites choses que tu peux resserrer pour être encore plus efficace. Mais non, donc effectivement, bah oui, un coach digne de ce nom, qui a des années d'expérience, a 250 tonnes de templates selon les profils qui sont prêts à ouais.
Et après, il suffit juste d'adapter la molette et de faire quelques petits réglages précis pour avoir en fait un programme qui est ultra. Mais tu sais, c'est j'en parlais avec des coachs qui ont moins d'expérience. Je leur disais, mec, ce que tu fais, c'est que avec l'expérience que tu as, regarde, 90% des clients que tu as à chaque fois, c'est les mêmes. Pourquoi est-ce que tu te prends la tête à tout le temps recréer un programme from scratch? Ils me disaient, ouais, mais c'est pour éviter le copier-coller. Mais non, c'est pas du copier-coller, c'est juste que c'est pas. Il n'y a pas de grande différence en soi. L'objectif de la personne, de ta niche, c'est d'aider les personnes à perdre du poids. Okay, donc, s'il n'y a pas 20 000 formules possibles, je ne suis pas coach, mais il n'y a pas 20 000 possibles formules imaginables, c'est que tu crées ta base et après, tu adaptes simplement à chaque fois à la personne. Voilà.
Donc, c'est ça. Mais tu es obligé d'avoir ta base. Et puis après, ce qui est très, très important, et c'est là où je pense, moi, je tourne bien, c'est la personnalisation du suivi.
Ouais.
Tu vois, tu ne peux pas te contenter de prendre ton template, mettre juste un blaze.
Et de l'envoyer. Ouais.
Non. Déjà d'une, parce que si la personne elle a des pathologies articulaires, musculaires ou quoi, okay, et que t'as pas vu, bah déjà c'est pas bien, tu vois, parce que la personne elle t'a payé, t'as une obligation de résultat et t'as une obligation de prendre soin d'elle.
Et une obligation morale aussi.
Bah, c'est ça. Donc, tu peux. Mais après, quand tu as quelqu'un en suivi, la personnalisation du suivi, c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines, ok, moi je pense que le programme que je t'ai fait en me basant sur les pathologies que tu m'indiquais te convient. Maintenant, au bout de 2 semaines, tu écoute, Karim, quand je fais ce mouvement-là, j'ai mal là. C'est pas une douleur musculaire, c'est pas. Ok, on change, on s'adapte, on ne doit pas faire un exercice qui fait mal ailleurs que musculairement parlant. Exercice qui te donne un lumbago à chaque fois que tu le fais, non. Donc, on doit aussi. La force de la personnalisation, elle doit se faire sur le programme de départ, mais elle doit se faire aussi sur ton suivi. On ne fait pas un suivi à l'arrache. Tu vois.
Non, c'est dingue de se dire que arriver à un niveau, tu vois en fait, t'as un œil différent en fait à chaque fois sur ces trucs-là. Je dis bah toi, ce qu'il te faut, c'est ça. Tu vas, tu pioches, tac, pam, et tu tombes sur le programme parfait à donner à la bonne personne au bon moment.
Ouais, moi, j'ai par exemple, je sais pas, je vais dire dans le programme, dans le template, femme, perte de poids, je sais pas, j'ai un exemple plus de 50 ans par exemple. Je suis presque une centaine là-dedans. J'arrive, avec le temps, par rapport aux réponses et par rapport à l'étude du physique des photos, j'arrive à voir, ok, je pense que elle va me donner un peu de fil à retordre pour perdre du poids. Non pas parce qu'elle a pas envie, mais parce que je pense que quand je vois ce morphotype, des fois, c'est un peu du mal à bouger. Il y a des indications, même dans les... Dans les réponses aux questionnaires, il y a des choses qui me font dire que voilà. Donc ok, je vais lui mettre un programme un peu plus, un petit peu plus physique, parce qu'il va falloir qu'on essaye de cramer un petit peu plus de calories si on veut arriver à bouger le métabolisme et avoir du résultat assez vite pour que la personne se décourage pas aussi. Donc, mais c'est l'œil, hein. Enfin, c'est au bout d'un moment, c'est
l'expérience qui parle et qui.
Ouais, c'est pour ça que moi je demande systématiquement. Je suis super chiant avec ça, mais moi j'accepte pas un bilan où on m'envoie pas de photos.
Et non, les photos, tu les demandes toutes les semaines ou tu les demandes tous les mois?
Toutes les semaines.
Toutes les semaines, d'accord. Tu vois, parce que c'est drôle que tu m'en parles, parce qu'en ce moment, on est en train de bosser sur les statistiques sur Gymkey. Et je pose plein de questions aux différents utilisateurs. De me dire, au début, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'était mis de base, vu qu'on a parlé à quelques coachs. Bah, ok, toi, t'envoies un truc toutes les semaines. Du coup, on a sorti une première version. On disait, bah, les photos, elles sont demandées tous les mois. Et là, t'as des grands coachs. Ils me disent, bah, non, mon gars, moi, je demande ça toutes les semaines. Tu vois, et ça dépend des coachs, mais c'est vrai qu'il y en a qui demandent toutes les semaines, d'autres toutes les 2 semaines, d'autres tous les mois. Et
le fait d'avoir une comptabilité, c'est le meilleur moyen que ton élève ne perd pas de train, ne perd pas sa route. Tu vois, le fait d'avoir une comptabilité, de te dire bah parce que je suis super cool, mais quand le taf il est pas fait, qu'on a fait de la merde, je sais le dire aussi.
Ouais.
Parce que c'est mon boulot en tant que coach. Moi, j'ai une obligation de résultat. Je suis pas là pour entendre non, c'est dur machin et tout. Je suis là pour te donner du résultat. Donc c'est à dire t'as fait de la merde, tu vois. Donc quand le coup près risque de tomber chaque semaine, je suis pas agressif, hein, jamais. Je suis pas agressif et je suis pas dans le jugement. Mais si t'as fait de la merde, je te dis.
Oui.
Tu vois, si tu me dis ouais, j'ai craqué, j'étais 4 fois au McDo cette semaine, bah ouais, gros, t'as fait de la merde. Je suis désolé. Ouais. Ne t'étonne pas que tu m'envoies un bilan pourri.
Ou qu'il te l'envoie pas parce qu'il assume pas d'avoir tapé les 4 McDo.
C'est ça, tu vois. tu vois, moi j'ai quelqu'un qui fait bien le taf et qui a pas perdu de poids. On parle beaucoup de perte de poids. Quelqu'un qui fait bien le taf et qui a pas perdu de poids, honnêtement, c'est pas grave. Écoute, on va faire les modifs nécessaires tu as fait le taf, je te prends sur parole. Il n'y a pas de souci, on va faire le taf nécessaire. Par contre, là, si je vois que tu as pris un kilo et puis que ouais, j'ai craqué cette semaine, tu as vu, lundi, j'étais au McDo, mercredi, il y avait un barbecue, j'ai bouffé des chips et des merguez, samedi, soir entre potes, j'ai bu. Bah, t'étonnes pas que l'on est pourri, mais justement, comme je suis pas forcément aimable, quand on y a mis de la mauvaise volonté, bah, ça met, tu vois, ça met au pas. Donc, du coup, le fait d'avoir un bilan par semaine, moi, je trouve que, j'ai essayé de le faire pendant un moment, toutes les deux semaines. Je trouve que tu perds la, c'est pas un mot que j'aime bien, mais tu perds un peu ton emprise sur l'élève.
Ouais, bien sûr, je vois ce que tu veux dire.
C'est un peu ta route. Et au moins, s'il y a eu un débordement pendant une semaine, bah, au moins, la semaine d'après, le bilan, il est là pour te dire, écoute, j'arrive pas à garder le cap. Voilà. Et là, t'es là aussi en tant que coach pour dire, bah, ok, bah, si tu arrives pas à garder le cap pour telle ou telle raison, essaye ça. Et, tu vois, si t'arrives pas à garder le cap, parce que quand il y a du chocolat chez toi, t'es obligé de le manger. Tu vas en avoir t'as ton repas plaisir le week-end. Tu vas lâcher le week-end. C'est des trucs comme ça, mais c'est des habitudes que les gens, ils ont et par le suivi toutes les semaines, on arrive à garder parce que les incidents restent des petits incidents et ne deviennent pas des gros accidents. Donc ouais, moi je trouve que c'est important, le bilan par semaine est important.
Mais c'est aussi mis en place toutes les semaines par toi, parce que c'est quand même très bien automatisé sur le process de si ça aurait pas été automatisé comme tu le fais, est-ce que tu le tiendrais toutes les semaines?
Bah, si ça avait pas été automatisé pour moi, je l'aurais tenu toutes les semaines, mais ça m'aurait demandé beaucoup plus de temps. Je ne conçois pas ne pas demander un bilan toutes les semaines. Et pourquoi ça aurait pris beaucoup plus de temps? Parce que j'ai des élèves, je pose un certain nombre de questions dans les bilans. Là, dans le formulaire, ils sont obligés d'y répondre, sinon le formulaire ne s'envoie pas. Donc, ils sont obligés de répondre à toutes les questions. Maintenant, je leur envoie un formulaire qui me répond pour le bilan. Sur 12 questions, je vais avoir 6 de répondus et 6 ne sont pas répondus. Je suis obligé de leur courir après pour dire, tu as oublié de répondre à cette question.
Ouais.
Je vais m'envoyer les photos. Donc, du coup, je perds beaucoup de temps. Mais par contre, maintenant, derrière, je suis intransigeant, c'est-à-dire que sauf cas exceptionnel, un bilan qu'ils m'ont envoyé séparément par mail, de manière récurrente, le mercredi, non. Non, moi, le jour pour les bilans, c'est le samedi, du samedi matin 8h au lundi 21h. T'as 3 jours pleins pour le faire. Tu le fais. Sinon, t'attends la semaine d'après. Parce que moi, ma semaine, elle est découpée de telle manière. Bien sûr, il y a des cas exceptionnels, tu vois. Bah, j'ai pas pu cette semaine, parce que je peux t'envoyer mercredi, y a pas de souci. Mais quand ça se reproduit tout le temps, bah, non.
Et c'est aussi un point ultra important que tu mets en place ici. C'est quelque chose que t'apprends pas vraiment avant de te lancer dans le business et parce que quand tu te lances, ce que tu veux, c'est faire plaisir à tes clients le plus possible, et ça empiète quelquefois pas mal sur ta propre vie perso. Et quand tu dis des fois, j'avais sorti une vidéo à un moment donné sur YouTube qui disait, j'en ai sorti deux qui ont fait jacter un peu sur les groupes Facebook, c'est pourquoi est-ce que c'est bien de refuser des clients. Ça avait créé pas mal de choses, bref, c'était assez drôle à voir. Mais t'avais aussi la deuxième partie, c'était de cadrer, en fait, de savoir dire non simplement et d'être ferme, parce que quand tu es coach sportif, oui, tu as un business, mais tu as aussi cette partie-là où tu dois pas oublier que tu as quand même une vie à côté et que c'est à toi de cadrer. En fait, si tu dis à ton client, fais-le moi à telle date et à telle date et qu'il le fait pas, c'est tant pis pour lui. Tu as été. Le seul truc, c'est de fixer les limites à l'avance.
Ouais.
Tu vois, et que les deux parties soient OK avec ça.
Ouais.
Et après,
c'est très dur quand tu te lances, c'est très dur à faire parce que t'as toujours peur de
vexer le client,
de vexer, ouais, de le perdre. Donc c'est vrai que même au début j'avais un peu de mal, tu vois. Et on m'envoyait un message WhatsApp, je répondais dans la minute. À un moment j'étais obligé de professionnaliser la chose parce qu'il s'est passé deux événements, c'est que j'ai eu pas mal d'élèves et qu'à un moment il faut quand même que j'ai une vie à côté et que je suis pas payé à répondre de minuit à minuit. On a professionnalisé le truc. Je réponds tous les jours quoi qu'il arrive. Et puis deuxième événement, il y a eu l'arrivée de ma fille aussi qui m'a fait prendre conscience que moi j'ai pas vu parce que tu sais j'étais dans le lancement vraiment de la société au moment où ma fille est née en 2017 et j'ai pas vu les 6 premiers mois de ma fille, quasiment pas. C'est-à-dire que je partais chez moi à 5h30 du matin pour aller au bureau et je rentrais, il était 23h minuit, je dormais direct, ma fille dormait, je me réveillais la nuit pour donner un biberon et je partais. Et tu vois ce rythme-là parce que j'avais pas encore automatisé certaines tâches, preuve de beaucoup de souplesse par rapport à l'envoi des bilans, par rapport aux heures d'envoi des messages WhatsApp. Là, aujourd'hui, mon téléphone pro, je pars de chez moi. Si je pars une après-midi, je ne le prends pas. Je répondrai quand je rentrerai. Et j'ai des élèves qui sont géniaux, ils comprennent tout ça. Parce que ça a été comme ça dès le départ.
Non, ça a été dit à l'avance, simplement.
Ça a été dit à l'avance.
Parce que les deux parties sont qu'elles là-dessus.
Ouais, Ça m'est arrivé même récemment, ça m'est arrivé de perdre des élèves parce qu'ils estiment qu'ils t'envoient un message et qu'ils doivent avoir une réponse dans la minute. Mmh. Il y en a un qui n'a pas été désagréable, je lui dis, écoute, ne me confonds pas, je suis pas ta meuf. Mmh. Tu vois, si tu veux envoyer un message à ta meuf que tu estimes qu'elle doit te répondre dans la seconde, non. Tu m'envoies un message le matin, je te réponds à midi, il n'y a pas mort d'homme. Mmh. Y a pas mort d'homme. Moi, j'ai eu un coach qui était très, très célèbre, un Américain aussi. Je paye très, très cher. Je paye très, très cher. Et j'ai envoyé un mail et j'avais une réponse sous une semaine. Mmh. Et je pignais pas, j'étais content d'avoir ma réponse. Mmh. Donc, mais effectivement, il faut mettre un cadre. Et au début, t'as un peu peur de vexer ton client. Tu te dis, mince, si je réponds pas tout de suite, il va aller voir un autre coach, il va. Mmh. Et au bout d'un moment, quand tu t'aperçois que c'est pas vivable, tiens, à un moment, faut peser le pour et le contre. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses que tu fais, si c'est contre ta nature, faut pas le faire parce que ça te pourrit la vie. Mmh. Donc, il faut vraiment professionnaliser les choses. Et tu vois, quand tu fais du coaching en ligne, c'est difficile. Quand tu es coach en salle, tu vas à la salle,
fais tes coachings. C'est basta.
Fini. Ouais. Quand tu fais un coaching en ligne, moi, j'ai des gens avec qui je discute tous les jours, surtout en début de programme, parce qu'ils ont besoin de me parler, parce qu'ils ont des questions, parce qu'ils ont des appréhensions et tout ça. Et j'ai des messages, des fois, qui arrivent à 2h du matin, 3h du matin. Donc, je suis couche tard, il suffit que je sois sur l'ordinateur à ce moment-là, je réponds. Et puis des fois, je suis de bonne heure, je reçois un message de bonne heure, je réponds. Et en fait, tu te rends compte, quoi, en fait, tu peux passer ta journée à taffer. Alors, pas pour la même personne, mais en fait, tu peux passer ta journée à taffer. Et du coup, tu loupes des moments en famille. Mmh. Tu crées pas de contenu pour tes réseaux. Non, alors qu'en professionnalisant les choses, en étant carré, parce que coaching en ligne, t'es à la maison. Donc, t'es tout le temps à même de répondre, t'es tout le temps à même d'être sur l'ordinateur, t'es tout le temps à même d'être sur ton téléphone. Tu vois, une chose que je ne fais pas, sauf en cas de gros, gros soucis, ça m'est arrivé plein de fois, je peux pas répondre à tous mes élèves au téléphone. Mmh. Je leur dis, je préfère que vous fassiez un message écrit parce que, imagine, si tout le monde m'a... Sauf en cas de gros problème, ça va pas, je me suis fait archi mal. Ok, va voir un médecin d'urgence, va voir un ostéo d'urgence. Mmh. Tu vois, des choses comme ça. Mais il y a des choses que je peux pas. C'est comme les notes vocales, je demande à mes élèves, évitez de m'en faire, sauf si c'est vraiment surhumain, parce que t'as des gens qui font deux notes vocales, elles font 8 minutes. Mmh. Imagine multiplier par X élèves sur la journée.
Ouais, ça fait beaucoup.
C'est pas par, par grosse tête, c'est pas par manque d'humilité, c'est juste pour des questions organisationnelles. Pour moi, l'écrit, c'est mieux. Tu vois. Donc quand tu mets ces bases-là dès le départ, et je le mets, quand j'envoie le premier programme, je mets toutes les notions à connaître. Et ouais, faut que ce soit cadré dès le départ. Mais quand t'es néo coach et que tu fais du coaching en ligne, il faut que tu fixes tes limites dès le départ. Et vaut mieux perdre un client avec qui ça va pas matcher et perdre quelle que soit la somme que tu perds par mois, plutôt que d'avoir
un mauvais client.
Ouais.
Mauvais dans le sens prise d'énergie mentale.
Ouais, c'est ça. Et moi, je l'ai fait au début. Je l'ai fait au début un tout petit peu, mais comme je suis quelqu'un qui a un caractère assez fort, ça n'a pas matché longtemps. Et à un moment, je me suis dit, non, écoute, là, à un moment, tu mets des limites. Et puis c'est vrai que quand j'ai vu, j'ai fait le bilan, j'ai vu que ma fille, elle avait 6 mois, j'ai dit, putain, j'ai pas le temps de passer. Donc j'ai vraiment pris cette décision de cadrer encore plus les choses.
Donc, c'est important, justement. On avait fait une vidéo où on disait, voilà, dès le début, tu dois justement savoir comment est-ce que déjà toi en tant que coach tu veux bosser, avec qui tu veux bosser, et justement poser des limites et même refuser des clients. Et là, je m'en souviens, dans les commentaires Facebook, c'est on n'est pas tel coach pour refuser tel client. Bref, tu vois, c'est toujours des a priori de se dire ok, ouais, mais on refuse pas de l'argent aussi, parce qu'en fait ce que tu prends là demain, ça va t'impacter de manière plus forte que ce que tu ne crois.
Mais il y a des gens qui sont moi, j'ai des rapports très amicaux avec mes élèves. Et j'en ai certains avec qui il y a le Covid et tout ça, mais on organisait des restaurants, on faisait des rencontres. Et j'ai des rapports très très amicaux avec mes élèves. Mais j'en ai dès le départ sur la prise de contact. Je sens que ça va pas matcher, tu vois. Et quand t'as quelqu'un qui dit oui, mais moi j'ai telle attente, moi je veux qu'on fasse le programme, mais faut vraiment m'expliquer point par point ce que tu me fais faire. Je suis coach. Je suis pas un formateur. Si tu veux savoir, va passer le BP, tu vois. Non, mais c'est tout con. Et encore une fois, c'est vraiment pas question d'avoir pris la grosse tête. Moi, mon métier, c'est coach. Si tu essaies de comprendre, je veux bien t'expliquer, mais je ne peux pas passer mon temps à te détailler l'intérêt de tel mouvement, l'intérêt de tes pratiques. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ouais, ça m'arrive des fois de refuser régulièrement des gens pour telle ou telle raison. Et moi, je dis, alors c'est vrai que maintenant, de ma situation, c'est peut-être plus facile à le dire, mais moi, je dis que même un coach débutant, quand tu commences à avoir un petit peu de monde, réfléchis avec qui tu as envie de bosser, parce qu'il y a des profils de gens qui, en coaching, je me pardonne, ils sont imbuvables.
C'est vrai.
Moi, j'ai eu des clashs avec, avec une personne qui m'a dit que j'étais pas cool, qui remettait mes compétences en question parce que je lui ai dit non, je veux pas que tu manges du Nutella tous les jours parce que si je te laisse en manger, tu dérapes. Tu vois? Je vais pas te dire non à une demi-cuillère par jour, mais le problème, c'est qu'en fait, à chaque fois que je t'ai dit ça,
c'est deux pots qui
passent. Il est passé. Donc, je garde-le en plaisir, serre un peu, garde-le en plaisir, tu vois, sur la semaine. Et d'un moment, j'ai dit, écoute, ouais, t'es pas cool, franchement, il y en a qui parlent, leurs élèves, ils mangent du Nutella, je vais voir, va les voir eux. Toi, tu dérapes à chaque fois. Donc, du coup, bah, on a arrêté de collaborer ensemble, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des gens qui sont imbuvables. Et donc, plutôt que ce soit une tannée de bosser avec eux, mais c'est valable aussi pour les gens qui bossent en salle. Hein.
Bah, c'est valable dans tous les domaines en soi. Hein. C'est, tu vois, même nous, en fait, on a, si je te donne le nombre de coachs qu'on a redirigés vers des applications concurrentes, tu serais étonné parce que.
Vous avez raison.
Parce qu'à un moment donné, tu vois, c'est de dire bah, oui, on a ça, mais bref, ça fait des demandes improbables. Je dis bah, écoute, t'as lui qui le fait très bien. Va voir ce qu'il fait. Tiens, dis-leur que même que tu viens de notre part, ça va leur faire plaisir.
Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est une galère. Si tu sens que ça va être une galère, t'as raison. Bah moi c'est pareil. C'est pareil. Je leur dis ta demande là ou la même des façons de s'exprimer très autoritaires, je peux pas. Tu vois. Moi j'estime qu'on est en collaboration. Je ne suis pas ton employé. Tu me payes pour une compétence que j'ai. C'est une collaboration. Tu vois. Tu vas chez un prestataire divers. Tu ne parles pas comme un yinche. Bah moi c'est pareil. Je suis un prestataire qui je ne suis pas ton employé. Pour une prestation, une compétence que j'ai qui ne te donne pas pour autant d'autorité. Et même si j'étais ton salarié, tu n'aurais pas me parlé comme ça.
Ouais.
Il y a des gens qui te disent je te paye, donc tu dois répondre tout de suite au message.
Ouais.
Oh. Donc vraiment, franchement, les néo-coachs qui m'écouteront ne toléreraient pas ce genre de comportement. Après, si vous
même si c'est le début, même si vous n'avez pas 20 000 clients, c'est dès le début, en fait, il faut savoir mettre ça en
place. Non, moi j'ai compris un truc. Hein. Vaut mieux dire non à un client et perdre, et refuser de l'argent. Que de bosser avec un client qui est une vraie plaie, qui ne te respecte pas. Il n'y a pas de pire sentiment que d'avoir l'impression d'être obligé de fermer ta gueule parce que, excuse-moi l'expression, parce que tu es dans une situation où financièrement, c'est pas trop ça. C'est sûr, plus facile à dire qu'à faire, mais je l'ai fait à l'époque aussi. Hein, pourtant, je n'avais pas énormément de clients, mais il y avait des gens, je ne pouvais pas bosser avec parce que le profil, ça n'allait pas. La façon de s'exprimer est très autoritaire, très bon, ça aurait mal fini.
Non, mais c'est cool que tu en parles aussi. Ça permet aussi de pouvoir avoir cette partie, de faire comprendre que même si en fait tu as une activité, même si c'est le début, même si tu as besoin de nouveaux clients, savoir que tu bosses en tant que coach, quand tu bosses, c'est pour toi, c'est ton business tout simplement. Et que tu as cette liberté-là de pouvoir choisir avec qui tu bosses, profites-en. C'est tout. Tu vois, c'est profites-en.
En plus, honnêtement, il y a tellement de taf. Un client perdu, ce sera juste une place supplémentaire pour un client qui t'aura prochainement. Ne crois pas que, oh là là, mon Dieu, ça y est, oh, j'ai réussi à choper un client. Il y a tellement de boulot que tu peux te permettre le luxe, justement, de décider avec qui tu travailles. Tu vois ? Parce que les prestations de service, comme on a, les gens ont vite fait de dépasser. Tu sais, ils ont un peu l'idée, des fois, je me paye un coach, donc. Il m'appartient, non. On collabore ensemble. J'ai une compétence que tu veux que je mette à profit pour toi. Ok, on va faire, mais sous mes conditions. Bon, profiter de mes compétences sous mes conditions. Tu as tes conditions aussi, bien entendu. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer, ben non. Bon, quelqu'un qui s'excite parce que tu n'as pas répondu à un message en 10 minutes.
Là. Oui. je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, Karim, c'est quoi vu qu'on revient là, on va closer l'interview ensemble. Mais
je suis bavard.
Ça me va très bien parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup en fait. Le but du podcast, c'est de creuser des thématiques que les coachs sportifs ne voient pas forcément partout. Justement, en ramenant des coachs comme toi avec l'expérience, de dire voilà ce que toi tu fais. Voilà ce que tu mets en place et d'avoir des discussions sur certaines thématiques parce que c'est aussi ça le but du podcast. Mais pour revenir à ce que tu disais au début sur les investissements que tu peux faire aujourd'hui, c'est quoi les différents outils que tu utilises et les différents investissements que tu as pu mettre en place dans ton coaching?
Différents outils.
Avec les tarifs, si jamais tu peux donner les tarifs.
Ouais, j'ai le site internet.
Ouais. WordPress, il me semble.
Sous WordPress, mais il y a une partie en développement pur aussi.
Okay.
C'est moitié-moitié. Le site internet, moi, à l'époque, on était revenu à plus, largement plus de 10 000 euros.
D'accord.
Ouais, je crois dans les 15 et quelques mille.
Ok.
Mais à ce jour, j'ai un site quand même qui a de la gueule.
Ouais.
Qui performe bien, qui convertit bien. Et sur lequel, à ce jour, j'ai toujours des retours en disant que j'ai un site qui est très
propre. Non, il est très propre, ton site web.
Ça a été un investissement très cohérent. Des formations dans le marketing aussi.
D'accord.
Dans le web marketing, parce que c'est, en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée d'automatiser plein de trucs. C'est à une époque par l'outil LearnDash, qui était un outil pour remettre des formations en ligne, de passer par ClickFunnels, de passer par, donc déjà, ce format marketing, moi, ça m'a coûté, je sais pas, peut-être aux alentours de 15 000 euros aussi, sur plusieurs années, hein, pas d'un
coup. Ouais, bien sûr.
Ouais, sur peut-être aux alentours de 15 000 euros, mais encore une fois, j'ai payé des formations chères en marketing qui, derrière, avaient excellente réputation et qui, effectivement, m'ont fait récupérer mon investissement, généralement, en moins d'un mois. Tu vois, je me suis pas planté sur les formations marketing que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai investi d'autre encore? J'ai mon assistant. Moi, depuis 4 ans maintenant. 4 ans et demi.
C'est un assistant virtuel, du coup?
Ouais. On s'est jamais vu en vrai. On se téléphone. Ouais. Mais on s'est jamais vu en vrai. Il bosse très, très, très bien. Mais ça, c'est pareil. C'est un investissement que je regrette pas parce que ça dégrossit vraiment
la charge de travail, tu vois. Ouais.
Et c'est pareil, j'économise sur ma journée des fois une heure et demie, deux heures. Enfin, salut. Pour YouTube, je bosse aussi avec quelqu'un qui s'occupe de... qui commence un petit peu à travailler sur le référencement de la chaîne et tout ça. J'ai bossé avec une autre personne qui n'était pas du tout efficace. C'est pareil, quand t'as l'outil, faut voir le... Quand tu investis quelqu'un avec un prestataire qui est censé te faire un travail et que tu vois qu'au bout d'un moment ça n'évolue pas, il ne faut pas hésiter à dire stop. Dans les activités en ligne, il y a beaucoup de beaux parles. Il y a beaucoup, beaucoup de fausses promesses. Donc il faut être à cheval. Hein. Si tu prends un prestataire, il faut donner des délais. Si les délais ne sont pas respectés, que tu as l'impression qu'ouvertement ils se foutent ta gueule, généralement, c'est même sans se tromper.
Il faut couper.
À dégager. Donc ça, j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait quoi d'autre? Bah après, investir dans le matériel pour faire de belles vidéos, me former aussi pour monter mes vidéos.
Ouais.
Tu vois, parce que ça, c'est des choses que je pourrais déléguer, mais le montage de base, en fait, ça me plaît de faire.
Ok.
Donc ça, c'est mon petit plaisir perso. Donc mais j'ai investi dans 2-3 formations aussi. Après, il y a beaucoup de choses que tu peux trouver en ligne aussi pour faire du montage correctement. Les logiciels de montage. Vas-y, Final Cut. Après, t'achètes toujours un petit peu de trucs pour faire des effets sur les vidéos, etc. Voilà, non, en gros, c'est le plus gros investissement depuis le début. Ça reste le site.
D'accord.
Okay. Enfin, le gros investissement d'un coup.
Ok.
Si je fais le tour de tout ce que j'ai investi, je ne saurais même pas te dire. Je ne saurais même pas te dire, mais il est possible qu'on soit ces chiffres.
Ok, ouais. Bon,
je ne saurais pas te dire.
Ça m'étonnerait pas. Et ce que tu utilises tous les jours pour tes coachings, c'est quoi? Tu utilises WhatsApp, ta ClickFunnels pour la vente.
Ouais. Bah, ClickFunnels, et même je l'utilise même maintenant aussi pour la vidéothèque des mouvements.
Ok, d'accord.
Tout mis dedans. WhatsApp, ma boîte mail et Skype pour communiquer avec mes prestataires, mon assistant et le mec pour YouTube.
Ok, ouais. Cool. Ouais. Aujourd'hui, si tu pouvais donner un conseil à des coachs qui se lancent, ça serait quoi? Un seul conseil?
Un seul conseil, ouais. Ne vous bradez pas.
Ouais, ok.
Ne vous bradez pas, parce que c'est la pire insulte que vous puissiez vous faire. Vous avez une compétence, vous vous êtes formé pour, vous avez une compétence qui a de la valeur, vous pouvez faire beaucoup de bien aux gens, et le fait de vous brader, c'est délétère. C'est une grosse erreur, parce que tu es payé à ta... parce que dans la tête des gens, tu es payé à ta juste valeur. Tu vois, et que demander un tarif, un coaching à 15 euros alors que t'as travaillé pour, t'as passé un diplôme, tu t'es cassé la tête, t'as des compétences, c'est inacceptable. Inacceptable. D'une, parce que c'est pas ta valeur. Si t'as passé le diplôme, que tu t'es cassé la tête, tout ça, ce n'est pas ta valeur. Et de deux, parce qu'en plus, tu casses le marché pour les autres.
Ouais.
C'est ridicule.
Je suis d'accord avec toi.
Bien entendu, si vous évoluez, je vais vous permettre de donner un deuxième conseil, si vous évoluez dans votre pratique, investissez et automatisez. Ça vous changera la vie. Vous aurez le temps de... L'investissement, c'est pas de l'argent perdu. Investissement intelligent. C'est pas travail à perte.
Oui, si tu vas te prendre une GLA en leasing alors que tu viens de commencer, là c'est autre chose.
Sous prétexte qu'il faut des baskets, acheter une paire de Jordan édition limitée à 800 euros, c'est pas forcément nécessaire, tout du moins au début.
Après, tu peux t'amuser une fois que tu as suffisamment investi.
Tu peux te faire plaisir.
Tu as même plus intérêt d'investir pour passer en charge que de laisser dormir ça sur.
Bien sûr, mais je vous dis franchement, comportez-vous dès le départ en chef d'entreprise.
Ouais.
Tu vois, le coaching, c'est votre métier, mais ce n'est pas. C'est une société. Une société pour vivre, elle a besoin d'investissement. Pour se développer, elle a besoin d'investissement. Voilà, ce sera mes derniers conseils.
Mais c'est, du coup, on a deux conseils de ta part qui sont ultra, ultra pertinents. Aujourd'hui, est-ce que tu as des coachs, des personnes qui t'inspirent dans ce que tu fais?
Qui m'inspirent?
Ouais. Ça peut être, j'ai dit des coachs, mais ça peut être des coachs, des entrepreneurs, des artistes, des sportifs, peu importe. Mais des personnes qui font que tu dis, ok, d'accord, j'aime bien ce qu'il fait.
D'un point de vue général, ce serait même pas un entrepreneur, mais moi j'aime bien les gens qui... J'ai personne qui me met en tête, mais j'aime bien les gens qui n'abandonnent jamais. Donc ça peut même être quelqu'un que je côtoie tous les jours, et qui est un parfait inconnu du grand public, mais qui ne lâche jamais. J'ai une fervente admiration pour quelqu'un qui s'est fixé un objectif et qui n'en démord pas. Ces gens-là, ils ont mon admiration, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la vie de tous les jours, tu vois. Des élèves pour qui j'ai une tonne d'admiration parce que leur évolution physique, elle a été un tel combat que pour moi, ils sont une source d'inspiration. C'est-à-dire que des fois, si j'ai un coup de poing, mais que je marche un peu blasé, tout ça, je pense à ces gens-là où vraiment, ces gens qui ont un dur combat et qui n'ont jamais lâché, pour moi, c'est une source d'inspiration. C'est peut-être un peu cliché de parler comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je suis. C'est que moi, je suis un vrai pitbull. Quand j'ai décidé, je lâche pas tant que j'ai pas. Et les gens qui ont ce trait de caractère, non pas que je m'admire, mais juste un trait de caractère que j'estime être une qualité, et les gens qui ont des combats très durs et qui n'ont jamais abandonné jusqu'à temps d'obtenir ce qu'ils veulent, ces gens-là, j'ai une admiration toute particulière pour Gary Vaynerchuk, que je pense tout le monde connaît, parce que en fait, ce mec me fascine par sa capacité à produire 360 000 contenus par jour. Tu vois, ça c'est hyper inspirant. Tu te dis des fois, moi je galère à trouver une idée. Le mec te partage des trucs pour faire de ça un super contenu. Il m'inspire beaucoup. Mais sinon non, j'ai pas de.
Bah, c'est de son livre là que j'utilise la stratégie de prendre une pièce de contenu.
C'est de ses conseils sur YouTube que j'ai utilisé cette stratégie aussi.
Ouais, pareil, c'est de ce bouquin-là que j'avais lu de lui que tu te dis, ok, que tu prends une pièce de contenu, que tu peux la mettre. Et il a raison, et c'est un truc, c'est pas visible à tout le monde, mais tu vois, l'histoire de Jim Key, par exemple, est documentée. En fait, depuis qu'on a commencé à développer l'application dans ma chambre en 2017, il y a une vidéo, en fait, tout le temps, qui retrace le parcours depuis ma chambre en banlieue parisienne ici à Stanford. Donc ça, c'est pour l'instant, c'est pas en ligne, mais tu vois, c'est aussi de lui que j'ai réussi.
C'est une sacrée aventure que vous avez aussi. Moi, votre parcours, je le trouve inspirant. Bon, pas parce que je suis sur ton podcast, c'est pour faire de la lèche, mais moi, j'aime beaucoup. Tu vois, un peu cliché, hein, le truc de l'outsider, machin, nanana, mais t'as commencé dans ta chambre, maintenant t'es à Station F, tu fais parler de toi. C'est inspirant. C'est inspirant.
Et c'est pas
il reste du bon. Je te le souhaite, hein, où tu veux aller, mais moi, j'ai toujours dit qu'avec la bonne dose de travail, on va se trouver.
Ouais, et ça, je suis totalement d'accord avec ça.
Je suis pas d'accord quand j'entends les gens parler du facteur chance. Des fois, la chance, elle frappe, mais tu t'aperçois généralement que chez les gens qui ont bien réussi,
il y a
une dose de travail considérable.
Tu l'as créé, cette chance, et justement, je t'enverrai après le lien de l'autre podcast que j'ai où je ramène des entrepreneurs qui ont. Après, je suis pas sûr que tu aurais le temps de voir parce que c'est des épisodes.
Ah, mais ça m'intéresse beaucoup. Ouais.
Je ramène. Par exemple, on avait Guillaume qui est passé de 0 à 3 millions alors qu'il était du RSA en 3 ans.
Magnifique.
On a le fondateur de Pokawa, Bref, c'est un podcast qui est fait pour l'entrepreneur. Et moi, ça me permet de parler à des gens. Et quand tu les vois, quand tu les as avec toi, quand tu parles avec eux pendant 3 heures, tu te dis...
Boosté, hein.
Ouais, mais tu te dis qu'au final, le mec que j'ai en face de moi, qu'est-ce qu'il a plus que moi, tu vois, il a rien de plus. Il a juste bossé en fait pendant des années et aujourd'hui il est là. Donc tout le monde a l'impression qu'il a réussi le jour au lendemain, alors que le mec en fait il cravache, il a galéré. Bref, il y a plein de choses qui sont passées pour en arriver. C'est quoi le travail qu'a fait
à mon petit niveau déjà. Où, dans le coaching, je me débrouille pas trop mal et ça. Mais des fois on me dit ouais, mais non, mais c'est facile pour toi. J'ai des nuits sans sommeil derrière. J'ai des heures de taf. Des fois, je rentrais même pas chez moi. Je dormais au bureau quand j'ai lancé tout ça, parce que je voulais absolument apprendre pour être efficace dans le coaching. Je l'étais, parce que je connaissais bien mon métier, mais je voulais être efficace dans ma carrière d'entrepreneur, dans mon business, parce que je voulais que Bika devienne une brand. Tu vois, je voulais.
D'où le fait d'avoir des compléments alimentaires, des trucs comme ça qui englobent le coaching.
C'est ça. C'est ça. Maintenant, là, on n'est plus sur du branding maintenant. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur dès le départ. Et c'est des heures de travail. Donc, je te dis encore une fois, je ne me jette pas des fleurs. Hein. C'est pas ça. C'est que j'ai un putain d'amour pour mon boulot. Et je comprends que la réussite, elle est juste la somme de tout le travail que tu vas fournir. Le facteur chance, il va frapper de temps en temps. Mais voilà, à tout entrepreneur, si vous lancez votre entreprise et que vous faites vraiment quelque chose que vous aimez, vous faites pas quelque chose parce qu'il faut créer une entreprise. Mais vous pouvez réussir, surtout avec tout ce qu'on a maintenant.
Exactement. On vit à une époque, ce que je dis tout le temps dans les vidéos, à chaque fois que je parle de en ligne, je dis, on vit à une époque où toutes les informations possibles, imaginables, sont disponibles gratuitement.
Mais oui.
Sur YouTube, Google, partout. Donc, il n'y a aucune excuse.
J'ai appris sans même chercher à des formations payantes. Mais... sur YouTube, tu vois, on trouve tout.
Tout. Oui, il y a tout. Il y a même les cours de Harvard, hein, pour ceux qui veulent. Hein. Ouais. Ils sont disponibles en ligne gratuitement. Donc,
tu vois, c'est juste une question de te donner les moyens, de croire en toi et de ne pas écouter les mauvaises langues.
Ouais.
Tu vois, ça, si toi, tu crois, il n'y a personne qui doit être en mesure de te désarçonner. Moi, j'ai toujours cette image du pitbull. Quand tu as verrouillé ta mâchoire, tu lâches pas. T'as un objectif, tu ne le lâches pas. Tu donnes les moyens pour arriver. Et si tu te casses la gueule, tu te casses la gueule. Tu te relèveras.
Ouais, ça arrive. Bah, ça tu te relèveras que plus fort. Hein. Ah, t'auras appris des choses.
Je me la suis cassée plus d'une fois la gueule.
Ouais, j'imagine.
Et je me suis cassé, je me suis relevé, je me suis recassé la gueule, je me suis relevé. J'ai appris. Tu rousses pète au début, mais en fait, après quoi ? T'as appris une leçon. Trop vite. C'est le principe de la vie. Donc, ouais. En tout cas, les jeunes coachs. Si vraiment c'est votre vocation, ne lâchez pas, vous aurez des clients, vous boucherez, faites preuve de patience. Si vous faites ce métier avec amour, du coaching, le destin vous amènera du... Ah oui, tiens, j'en suis persuadé.
Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Karim. Où est-ce qu'on peut te suivre? Bon, on l'a dit un peu dans le podcast, mais où est-ce qu'on peut te suivre, nous, de notre côté?
Alors, sur Instagram, Bika-coach, Bika-du-bas, coach. Sur Snap, j'essaie d'être un peu plus actif aussi sur Snap, où je partage un peu mes séances maintenant. Pareil, Bika-coach. Sur YouTube, où je suis de plus en plus actif, Bika-coach, là, sans tirer rien du tout, Bika-coach. Bientôt sur TikTok, je vais écouter tes conseils.
J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je le sens bien, Bika, sur TikTok.
Ouais, ouais. Et puis, voilà, pour toutes les demandes de... au niveau du coaching, s'il y a des questions un peu spécifiques et tout ça. Vous avez un formulaire de contact sur mon site qui est www.bikacoaching.com. Vous avez un formulaire de contact. J'ai parlé tout à l'heure de mon assistant, mais toutes les questions un peu poussées que vous pouvez avoir, c'est systématiquement moi qui les traite. Mon assistant, il est formé pour le général. Et tout ce qui est demande particulière, c'est systématiquement moi qui traite. C'est moi qui établis les programmes. S'il y a des envois de photos, il n'y a que moi qui les vois. C'est, voilà. Parce que j'ai aussi des gens qui... Parce que c'est bien vous qui faites les programmes, c'est bien vous qui regardez les photos. C'est 100% moi.
Ok, top.
Voilà, vous pouvez.
Merci. Sinon, où ça?
Sinon, à Paris, en train de dans le
Paris. Merci en tout cas, Karim, d'avoir participé aujourd'hui au podcast. Il y a plein de bonnes choses que tu as partagées qui ont aidé pas mal de coach sportif. Donc merci à toi, coach, qui a regardé l'épisode jusqu'au bout. Merci d'être resté jusque-là, parce que l'épisode aujourd'hui il fait 1h30, donc 1h30 de bonnes valeurs, de bons conseils. Avant de quitter ta plateforme d'écoute, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, peu importe, n'oublie pas de lâcher soit un pouce bleu si tu es sur YouTube, soit lâcher les 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous aide énormément sur le référencement pour que d'autres coachs sportifs puissent avoir les conseils de Karim aujourd'hui, pour avoir les conseils des autres coachs sportifs qui sont passés sur la plateforme. Je t'invite à aller voir le travail de Karim directement sur son Instagram, sur sa page YouTube, et de mettre en place, en pratique, ce qu'il a pu partager avec toi aujourd'hui. C'est ultra important de mettre en place et de pas simplement écouter un podcast pour l'écouter, parce qu'après il y a la mise en place que tu dois mettre pour justement faire en sorte que ça fonctionne pour toi. Nous on se retrouve pour un prochain épisode dans 2 semaines avec un nouvel invité. De mon côté, j'ai plus qu'à te souhaiter de très bons coachings, et surtout prends soin de toi. Salut.
Merci, et merci encore de l'invitation.